on s'est créé le meilleur job du monde, on voyage aux quatre coins de l'Europe. C'est-à-dire que la première année, je crois qu'on doit visiter une quinzaine de pays, quoi. Donc, notre rêve, c'est les notes de frais, mais qu'on dépense vraiment. Notre comptable hallucine sur les notes de frais, il dit, vous êtes créé le meilleur job du monde, vous êtes les seuls gars à pouvoir passer en expense des strip clubs, quoi. Et, ça le fait marrer, mais nous, on fait, bah ouais, mais c'est le taf, hein. Et il dit, ouais, non, vous avez le droit, hein. Il dit, c'est mon client opticien, quand il revient avec une note d'un strip club, je lui dis, bah non, Roger, tu peux pas expenser ton strip club.
Oh, t'avais qu'un client,
et vous, ouais, bouteille de vodka en boîte, strip club, vous pouvez tout expenser, c'est, vous devez kiffer, les gars. On dit, ouais, on kiffe, ouais. Et, mais on fait kiffer nos clients, donc on est cohérent par rapport au produit.
Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une entreprise. Je suis David Flack, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcasts afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute!
Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent, vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash, F-L-A-S-H. À très vite et bonne écoute.
Bonjour à tous, bienvenue dans La Galère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Martucci, le cofondateur de Crazy Voyage. Juste avant de démarrer, un petit aparté sur un podcast que j'adore qui s'appelle Equity 101, ça s'écrit Equity 101. Voilà, c'est un podcast pour comprendre un peu le béaba du financement des startups et l'innovation. Ça a été créé par un VC chez Go Capital qui s'appelle Alexis Ménard. Et chaque semaine, voilà, il va interviewer des VC, des entrepreneurs, etc. pour qu'ils partagent leurs conseils sur le monde du capital risque. Voilà, il y a quelques épisodes qui sont vraiment sympas si vous voulez le démarrer. C'est Xavier Lazarus qui est VC chez Elaya notamment, ou encore Pierre Martini qui est partenaire chez Isaïe et qui nous raconte la différence entre venture capital, private equity, bref, tous ces trucs un peu sympas. Si ça vous intéresse vraiment, je vous invite à aller regarder ça. Sans plus attendre maintenant, salut Alex.
Salut David.
Comment ça va?
Ça va pas mal et toi?
Yes, donc il faut savoir, on a eu plein d'invités prestigieux, mais on n'en a eu aucun qui a eu un film qui a été fait sur lui. Si vous avez vu Budapest en salle avec Manu Payet, bah voilà, c'est le film sur la vie d'Alexandre Martucci et de son associé. Bref, raconte-nous un peu ce que c'est Crazy Voyage.
Alors, Crazy Voyage, c'est une agence de voyage en ligne qu'on a créée il y a 10 ans avec mon associé Aurélien. On est spécialisé sur les enterrements de vie de célibataires, donc EVG, EVJF. On est numéro 1 en France sur ce secteur et en Allemagne. Crazy Voyage, c'est une quarantaine de collaborateurs répartis sur 2 bureaux, à Paris et à Londres. Et on fait un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça fait qu'on fait voyager environ 50 000 personnes par an qui vont enterrer leur vie de célibataire à Prague, Barcelone, Budapest, aux quatre coins de l'Europe, également en France. Et pour les plus fous, à Bangkok ou à Las Vegas, un peu comme dans le film Very Bad Trip, puisque tu parles de cinéma. C'est à ce moment-là aussi un petit peu qu'on a eu l'idée quand le film Very Bad Trip sort en 2009.
Donc c'est vraiment le film Very Bad Trip qui t'a donné l'idée. Je peux pas croire.
Non, l'idée Very Bad Trip sort à ce moment-là. L'idée, on l'a entre potes en fait. Moi je suis né en 81, j'ai 39 ans maintenant. Mais quand j'avais 27, 28 ans, tous mes potes se mariaient et les premiers qui se sont mariés, on savait pas quoi faire. On avait surtout très peur de pas rentrer en boîte de nuit à 12 garçons. On vient de banlieue parisienne et on savait très bien qu'on n'allait pas rentrer. Donc pour le premier EVG qu'on a qui se présente à nous, comme je voyage beaucoup à ce moment-là, je travaille chez Eurosport, une chaîne de télé européenne. Je connais des boîtes dans le monde où on pourrait rentrer à Barcelone et j'ai décidé d'organiser le premier EVG de mon cousin à Barcelone avec tous nos potes d'enfance. C'est génial, on s'éclate et après c'est parti, c'est la surenchère. Chaque année il y a un nouveau gars qui se marie, chaque année il faut aller ailleurs, donc on enchaîne Cracovie, Lisbonne, Budapest, et c'est l'enchaînement de ces voyages entre potes qui nous donne envie d'entreprendre et de faire partager à d'autres groupes de potes l'expérience Crazy Voyage.
Moi, ce que j'aime bien avec ce podcast, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par toi. Moi, franchement, j'ai la moitié de mes potes qui sont mariés, qui ont fait leur EVG en prenant au moins une activité avec Crazy Voyage. Donc ça, c'est cool. Mais avant de rentrer un peu dans le concret de ce que tu as fait avec cette boîte, est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens? Parce que, encore une fois, on a pris quelqu'un qui a fait des bonnes études. Il a fait HEC, Alexandre, mais c'est pas l'HEC classique, quoi. Il vient pas d'un lycée privé du 9e. C'est un peu plus sympa comme histoire.
Ouais, effectivement, diplômé d'HEC en 2005, mais j'ai grandi en banlieue parisienne, comme je le disais en intro.
Ton père est boxeur surtout. Ça, c'est quand même une info de ouf, boxeur pro.
T'es bien informé, t'es bien renseigné. Effectivement, mon père était boxeur professionnel. Il n'avait pas fait d'études, ma mère non plus, donc on va dire que j'étais pas spécialement destiné aux classes prépa, aux grandes écoles, mais justement le fait que mon père soit boxeur et qu'il ait pas de diplôme, il me met dans le crâne très très tôt qu'il faut pas faire comme papa, qu'il faut aller à l'école le plus loin possible pour avoir un diplôme. Donc en fait, je suis mine de rien formaté par mon père pour réussir à l'école, et il me force à être très scolaire et à bien faire mes devoirs. Et ça se passe plutôt bien, toujours dans les lycées publics, enfin collège public, lycée public, classe préparatoire. Et mon père, je me souviens encore, il veut pas m'inscrire au concours au-delà de la 5e école, donc il veut pas me payer le concours pour les écrits com et tout ça à l'époque. Et
il
veut que je sois dans les 5 premières. Il me dit sinon ça sert à rien, t'as fait tout ça pour rien. Donc il me pousse jusqu'au bout à vraiment étudier au max, à préparer les concours comme il faut. Et donc j'arrive à HEC en 2001 et là je prends une belle claque parce que c'est pas du tout le milieu duquel je viens à la base. J'ai deux boucles d'oreilles, je suis en mode banlieue avec mes potes, j'écoute du hip-hop je fais pas de voile ou d'équitation et je pars de très très loin. Je mets un petit peu de temps à me mettre dans le moule, enfin je me mets même jamais vraiment dans le moule. Parce que j'ai une dégaine un peu qui dénote et surtout j'arrive, je suis mineur à HEC, donc 380e sur 380.
C'est beau, c'est le destin.
C'est le destin comme tu dis et donc dès le début, dès le discours d'intro de promo et tout, je suis présenté comme le mineur. Alors HEC c'est la seule école qui a vraiment un major et un mineur puisque ils arrêtent la liste
personne
à 380.
Refuse, ouais.
Voilà.
Personne refuse.
Et personne refuse normalement. J'ai la particularité, c'est que j'ai toutes les soirées gratuites pour toute ma scolarité. Donc j'écoute très vite les soirées open bar et j'en loupe pas une vu que.
Pour quand même savoir que pour ceux qui payent les soirées, ça coûte 5€, c'est pas non plus un budget énorme.
Pour moi, c'était un beau budget déjà d'économiser et ça me donnait une excuse pour en louper aucune. Donc ça, c'était cool. Mais je me fais rapidement des potes et je kiffe justement les soirées, la teuf. Et je pense que l'idée de Crazy Voyage vient aussi de là.
On
fait beaucoup la teuf. Il y a une liste BDE qui se monte. J'arrive à me greffer dessus. Je suis au pôle soirée, donc ils m'ont quand même mis à la sécurité du pôle soirée.
Si vous n'avez pas la chance de le voir, Alexandre, c'est une belle bête. Il est plutôt costaud, t'as pas envie de te taper contre lui.
J'exagère un peu, mais merci. Non, mais je fais de la boxe comme mon père, donc effectivement, ils me mettent au pôle soirée, puis ils me mettent avec les vigiles, à l'entrée pour filtrer. Et c'est une belle aventure de copains, et c'était super sympa.
Ok, et donc là, tu fais HEC, ensuite tu passes par HEC entrepreneur ou pas?
Non, pas du tout.
T'as pas pris, t'as essayé?
Ouais, j'ai essayé.
Ils t'ont recalé, ils sont forts quand même à recaler des entrepreneurs.
Ah ouais, mais ils m'ont recalé, je me souviens encore de l'entretien d'HEC entrepreneur. Ils regardent mon CV, ils voient que j'habite rue de Sévigné, le mec part sur parler nous de Madame de Sévigné. Et là, j'ai rien à dire, parce que niveau.
T'es dans le marais quand même, sympa!
Rue de Sévigné à Limeil-Brévan.
Ah, oups.
94-450. et l'entretien dure moins de 5 minutes, parce que j'arrive pas à sortir de Madame de Sévigné. Et les mecs voient que je suis pas du tout un littéraire, et donc ils partent sur un autre auteur, au bout d'un moment, je m'en sors pas.
C'est le club de littérature, là.
Ouais, et ça les fait marrer de me mettre dans ces situations-là, et j'arrive pas à m'en sortir. Donc je m'en souviendrai toute ma vie, l'entretien d'HEC entrepreneur, j'étais dégoûté.
À l'époque, c'était des fous furieux. Hein. Aujourd'hui, ils sont calmés quand même. Mais à l'époque, il y avait quand même les rumeurs, la légende veut qu'ils faisaient des trucs complètement absurdes pour te mettre juste mal à l'aise, quoi.
Et voir comment tu t'en sors. Voilà. Moi, j'en suis un bon exemple. Après, pour être tout à fait honnête, À HEC, je m'étais un peu endormi. Le fait que mon père me pousse bien dans les études et tout, une fois que j'étais arrivé là-bas, je croyais que j'étais arrivé justement.
Comme beaucoup de gens.
Voilà, comme beaucoup de gens. Moi, c'était vraiment, je pense, bien poussé, quoi. J'ai un profil en EF, comme il disait, j'ai eu tous mes crédits à l'arrache. Je fais beaucoup la fête, je fais beaucoup de sport. Je fais les championnats de France universitaire de boxe. Enfin, je m'éclate, je fais plein de trucs, mais je vais pas beaucoup en cours. Et ouais, donc la majeure, je subis en fait, je suis recalé de toutes les majeures sans exception, et je suis pris en majeure marketing, mais complètement par hasard. Donc c'était vraiment, voilà, une petite pause dans ma vie active, enfin pas active, mais je m'étais un peu endormi. Voilà.
Et donc, t'es diplômé de la majeure marketing, tu vas faire quoi après ?
Je suis toujours un peu endormi, donc je me gourre sur mes premiers choix. Je pars en audit, mais complètement par hasard, parce que je sais pas où postuler. Je prends le premier job qui tombe. J'ai un prêt étudiant à rembourser, donc je choisis un peu les cas euros qui, voilà, les plus sympathiques. Donc je fais de l'audit. Je me fais vraiment beaucoup chier, avec tout le respect que j'ai pour mes amis qui sont restés auditeurs, mais c'était vraiment vraiment chiant. Et là, au bout de à peu près 8 mois, à vraiment me faire chier, à faire des missions au Havre, dans des industries vraiment auxquelles je bite rien en plus, mais à chaque fois que j'arrive en mission, ils me disent « Ah, toi, t'es le gars d'HEC, tu dois être une grosse tête », et ils me filent des comptes comme si j'allais, sauf que j'ai bite rien en compta, pas plus qu'un gars qui a fait un DECF en face de moi, mais donc c'est vraiment pas terrible. Et là, je fais ma plus belle lettre de motivation ever, et j'écris à Eurosport. Il y a un poste qui s'est libéré aux acquisitions du droit du foot.
Combien de temps t'as passé à faire
cette lettre, elle m'a pris quelques jours. Vraiment, je décris ma passion pour le sport, je parle de mon père, je parle de son expérience de boxeur professionnel, je raconte que j'ai toujours voulu faire ça. Et je suis pris chez Eurosport. Et là, je passe 3 ans et demi dans les droits sportifs.
Tu baisses ton salaire, du coup ?
Je baisse mon salaire de beaucoup. Je me souviens encore du dernier entretien chez Eurosport où on me demande jusqu'à combien vous êtes prêt à descendre. et voilà, j'enlève 10K, et c'est beaucoup à l'époque, c'est 25% de mon salaire. J'enlève 10K sur mon salaire, 10K annuel.
Et ça te fait pas chier d'avoir fait HEC pour toucher 30K après un an d'expérience ?
Non, parce que je m'éclate. Quand j'arrive chez Eurosport, je m'éclate, je découvre un milieu que je connaissais pas du tout. Du côté business, j'adorais le sport, mais je savais pas comment ça fonctionnait. Et je revis surtout après 8 mois d'audit horrible. Donc là, l'argent n'est pas du tout, c'est chaud parce que je dois avoir 700 euros par mois à rembourser de prêt étudiant. Mais je m'éclate, donc c'est un kiff.
Donc là, tu fais 3 ans et demi chez Eurosport à gérer les droits télé. Et tu te casses pour monter ta boîte.
Exactement. En 2009, on a l'idée. Après, comme je disais un peu en intro, trois EVG organisés à Barcelone, Cracovie, Budapest. Et au retour de Budapest, j'ai un pote dans l'avion, un pote de pote qui était greffé à l'EVG, qui était un pote du marié que moi je connaissais pas trop, qui vient me voir et qui me dit « c'est toi qui as organisé ça et tout, c'était juste dingue ».
T'avais fait quoi de spécial dans ce EVG ?
Alors, cette EVG, je l'avais vraiment bien préparé parce que j'étais allé à Budapest 6 mois avant pour faire des repérages.
Ah ouais, vraiment?
Ouais, j'étais à fond. J'avais bien organisé Barcelone et Cracovie, mais Buda, je m'étais tapé, j'étais allé 6 mois avant. J'avais été repéré les bains de Budapest, j'avais été repéré toutes les boîtes de nuit. Bon, c'était une excuse pour y aller 2 fois, en fait. Ouais. Mais c'était top. J'avais réservé une limousine qui venait nous chercher, qui nous emmenait en boîte. J'avais été repéré les boîtes où il y avait les meilleurs sons hip-hop et tout parce que mes potes adoraient ça et moi aussi. Et donc, l'EVG, il est juste parfait, tout le monde s'éclate, on est 17. Et le gars dans le vol retour me dit, mais vends-le ton truc. Et juste les 2 heures du vol retour Budapest-Paris, je cogite en mode, mais ouais, en fait, je vais le vendre à d'autres gens, mais ouais, alors, je vais organiser pour d'autres.
Alors, le lendemain de soirée, vapeur d'alcool, tu te dis, ah ben pourquoi pas.
Voilà, je me dis, je vois l'idée, et j'ai mon meilleur pote Aurélien qui n'avait pas pu venir à celui-là. Et au retour, en fait, je le vois et je vais pour lui faire le débrief de Buda en disant « T'as raté un truc de ouf après Barcelone, après Cracovie, t'as raté Buda. » Et on fait un énorme dîner et après, je lui dis « Et en fait, tu penses pas qu'on pourrait le vendre, ce truc-là » Et il me dit « Ouais, mais grave. »
Il faisait quoi, lui ?
On en parle. Lui, travaillait chez Accenture. Il avait fait l'INT à Évry, qui était un profil moitié… Enfin, c'est une école un peu moitié entre ingénieur, moitié école de commerce. Donc, il était rentré dans l'IT et dans le conseil en système d'information. Il était chez Accenture. Il se faisait pas mal chier. Il n'avait pas encore trouvé vraiment sa voie. Et on fait un dîner avec 2-3 bouteilles. Et le lendemain, on se rappelle et on y pense encore. Ouais, j'y ai pensé toute la nuit, moi aussi. On y go. Et ça, c'était juillet 2009. On quitte nos tafs en décembre 2009.
Donc vous touchez le chômage? Vous arrivez à toucher le chômage?
Ouais, ça a été une négo assez simple pour moi, rupture conventionnelle et chômage.
Ils étaient détente, ouais.
Ouais, okay. Et Accenture, beaucoup moins détente. Beaucoup moins détente, il voulait qu'il démissionne et donc il a fait le forcing, mais...
Il a bien fait.
Voilà, il a réussi.
Ça, c'est important, franchement, ça te donne 2 ans pour monter ta boîte sereinement, en sachant que t'as quoi, 70% de ton salaire.
Exactement, exactement.
Pôle emploi, premier business angel français.
Ouais, je me souviens encore des coachs à l'époque qui appelaient ça Acedic Venture. Voilà, le financement de ta boîte.
Mais c'est important. Le nombre d'entrepreneurs à qui je parle, qui passent dans ce podcast et qui vont bénéficier de ça, sans qui ils n'auraient pas pu faire ça. On dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est un sport de riches. Et juste ce qui est vrai, les mecs qui le font en sortie d'école, etc., bah, quand même, t'es content quand t'as papa-maman qui te paye le loyer pour être tranquille la semaine. Mais Pôle emploi, je pense, a donné accès, grâce à leur fonds, finalement, un peu, à plein d'entrepreneurs qui n'avaient pas forcément les moyens de leur donner juste 2 ans de répit pour qu'ils créent un business model et qu'ils puissent se rémunérer, quoi.
Carrément, carrément.
Et d'ailleurs, j'ai une phrase que j'aime bien, c'est on devient entrepreneur le jour où on touche plus les allocs Pôle emploi.
C'est pas mal,
parce qu'il y en a beaucoup qui lancent l'ardoise, qui font genre, et quand il faut sortir le cash, il n'y a plus rien. Mais voilà.
Bah, c'est exactement ça. Nous, on avait un peu moins de 2 ans de Pôle emploi qui avait tombé. Donc, on savait qu'on avait moins de 2 ans pour.
Comment tu l'as vécu cette course contre la montre?
Plutôt bien, mais peut-être un peu par naïveté au début, parce qu'on fait du chiffre d'affaires, mais on a un BFR négatif. Donc, nos clients nous payent et ils partent 3, 4, 5, 6 mois après. Donc, on a vite de la trésorerie et on a vite, comme beaucoup d'entrepreneurs au début, on fait vite des conneries. On confond trésorerie, cash et rentabilité. Ouais, et TVA, rentabilité, marge. Et quand il faut payer les prestataires et tout ça, on n'a jamais été à découvert, mais on est short. Donc, comme on fait du chiffre d'affaires dès la première semaine, dès que le site est lancé, on est sûr qu'on va y arriver. Et donc, les 2 ans d'Acedic.
Raconte-nous ça. Alors, raconte-nous le début. Donc là, t'as l'idée avec Aurélien, soirée arrosée un peu. Vous dites, demain, on lance, vous quittez vos tafs, c'est bon. Vous avez les deux, votre sésame pour l'emploi. Vous vous dites, go. Qu'est-ce qui se passe?
On se dit go, déjà, il y a une toute petite étape qui est quand même hyper importante. On se dit go quand on a la licence d'agent de voyage. On vient pas du monde du tourisme, donc on met pas mal de temps à se renseigner sur, enfin, les premiers mois, c'est comment on a le droit de vendre un séjour. Et là, on se rend compte qu'il faut une licence, qu'il y a un jury qui te la donne, qu'il faut beaucoup de papiers administratifs, il faut une assurance, il faut une garantie financière, il faut se mettre à plein temps. Donc, ça, c'était le facteur déclenchant parce que le gérant d'une agence de voyage, il peut pas faire ça à temps partiel. Donc on dit de toute façon, si on se lance, ce sera à plein temps. Parce qu'au début, quand tu as une idée comme ça un peu marrante de créer une boîte,
tu te dis
on va faire ça le week-end peut-être et tout. Mais en fait c'est génial, ça nous met le vrai coup de pied au cul parce que on dit si on doit se lancer, en fait c'est à plein temps. Donc c'est all-in ou pas. Ou rien du tout. Donc la licence d'agent de voyage, on l'obtient en décembre 2009. Pour la petite histoire, tu disais, ouais, c'est chaud de se lancer des fois quand on n'a pas d'argent et tout. Il y avait un point qui nous faisait chier, c'était il faut une garantie financière et pour l'avoir, il fallait avoir 100 000 euros de côté. Il faut bloquer 100 000 euros sur un compte. Ça, c'est pour protéger, en fait, en France, tous ceux qui font un séjour, que si jamais l'agence de voyage a fait défaut, ils sont remboursés. Il y a eu Thomas Cook qui s'est cassé la figure il n'y a pas longtemps. T'es coincé à l'étranger, t'es parti avec Thomas Cook, en fait. Il y a un fonds qui va te rapatrier, tout ça, c'est la garantie financière de Thomas Cook. Nous, 100 000 euros, on les avait pas. On avait zéro. Il me restait encore un peu de dette sur mon prêt étudiant, même, pour être honnête. Et tu peux mettre un bien en caution. Alors, il faut être propriétaire de ton appartement. On l'était pas non plus. Donc, au début, on a que des murs en face de nous. Et j'arrive à convaincre ma compagne, qui possède déjà son appart, de le mettre en caution pour nous. Ça veut dire que si on fait des conneries, si on fait faillite, son appart, il est saisi, vendu, pour rembourser nos clients qui sont coincés. Donc, gros taf de persuasion, mais elle y croit. Et aujourd'hui, c'est ma femme, donc je pense qu'elle le regrette pas et ça a fonctionné.
Contre le VG.
Ouais. Ou pas. Et après, voilà. Donc, quand on a la licence, on passe devant un jury. C'est une scène un peu surréaliste où, quand on dit qu'on va créer Crazy EVG, qui est notre plus grosse marque, donc EVG comme enterrement de vie de garçon, les mecs comprennent IVG.
Attends, ça, c'est le jury HEC, ça.
Non, c'est le jury pour avoir la licence d'agent de voyage.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Et donc on est face à des anciens, des vieux, du touriste, des vieux de la vieille et tout, qui ont l'habitude de voilà du tourisme à la papa avec l'agence Capignon sur rue et tout. Et nous on pitch notre truc, voilà, on va organiser des EVG à l'étranger et tout. Ils nous laissent parler, ils nous laissent parler.
C'est du génie.
Et après les gars, ils nous disent mais. Vraiment, il y a un truc qui nous dérange quand même, faire des IVG à l'étranger. Bon, je veux bien qu'en France, ça s'arrête au bout de 3 mois, donc votre business, c'est d'aller faire l'interruption volontaire de grossesse à l'étranger. Ah non, non, vous n'y êtes pas du tout, les gars. Non, non, non,
ils
nous,
ont dû vous prendre pour des bouchers.
Ils nous ont laissé pitcher en croyant que c'était ça, quoi. Et donc, on réexplique le truc en disant non, c'est enterrement de vie de garçon.
C'est peut-être une autre verticale à développer.
Ouais, c'est... un peu chaud et voilà et là on a bon ils délibèrent ils sortent de là on nous donne la licence donc on a le sésame et donc là on se dit une fois qu'on a le sésame avec mon pote Aurélien on va aller voir nos boss respectives on s'appelle on se donne une heure on dit à 11h on y va toi aussi t'y vas parce que voilà fallait qu'on fasse all-in tous les deux ensemble et je me souviendrai de ce jour voilà toute ma vie
la
quoi.
Boule au ventre
ouais la boule au ventre et mais tellement ça fait tellement du bien une fois que tu l'as dit une fois que tu l'as fait tu rappelles ton pote il vient de le faire aussi tu sais que c'est parti et ouais c'est génial
après il y a eu combien de temps un peu de négo non de
non ça va assez vite en fait parce qu'on est en décembre 2009 à ce moment là et nous on se dit voilà les gens ils se marient l'été les EVG ça se fait en avril mai juin quelques semaines avant le mariage il faut qu'on ait notre produit lancé en janvier enfin on est même complètement téméraire et hyper naïf quoi parce qu'on démissionne en décembre 2009 on n'a pas de site on n'a rien à ce moment-là on est à poil on n'a pas d'argent mais on se dit qu'il faut qu'on ait un site en janvier
donc on est en 2009 comment tu fais un site en 2009 ah oui il y a une histoire croustille derrière là je la connais
ouais, alors c'est une des nombreuses erreurs qu'on peut faire au départ mon cousin un de mes cousins parce que je viens d'une grande famille italienne j'ai 17 cousins donc un de mes cousins celui pour qui on a enterré sa vie de garçon à Budapest donc justement il est un peu lié à l'idée dès le début et tout il est graphiste webmaster à ce moment là il fait des petits sites il a beaucoup progressé depuis donc je pense qu'il m'en voudra pas de dire qu'à l'époque il fait des petits sites mais il peut voilà coder rapidement un HTML et faire 5-6 pages d'un site web mais voilà on fait une connerie c'est qu'on est tous potes il fait partie de ma bande et on fait un tiers pour le graphiste web designer un tiers pour moi un tiers pour Aurélien sauf que comme je disais tout à l'heure Aurélien et moi on se met all-in on part à plein temps et lui il est toujours freelance graphiste et à ce moment-là il se met pas à plein temps et
en fait cette erreur-là tu l'as fait parce que tu te dis j'ai pas d'autre choix pour créer mon site
j'ai pas d'argent donc j'ai pas d'argent on l'a fait pour deux raisons la première honnêtement, c'est qu'on est tous les trois super potes et on se dit qu'on va faire on va entreprendre entre potes. Donc on se tape dans la main. Et la deuxième, c'est parce qu'on n'a pas d'argent, donc on dit à Mathieu, est-ce que tu peux nous faire le site ? Sauf que lui, il fait le site et pour lui, c'est son apport dans la boîte. Mais après, il part du principe qu'il va s'arrêter, qu'il a associé fondateur, qu'il a fait le site. Et lui, il a déjà des enfants. On n'est pas du tout aligné en fait, à ce moment-là. Mmh. C'est ça le truc, c'est qu'Aurélien et moi, on est à 28 ans, on fait all-in, on s'en fout. Et lui, il est un peu plus vieux que nous, il a 3-4 ans de plus, 3 ans. Il a déjà un enfant et tout. Et il dit, moi, je fais pas all-in, moi, je reste graphiste freelance. Donc après... pas mal de complications qui s'enchaînent. Viens, il faut qu'on soit à plein temps. Viens, il faut que tu prennes le téléphone, que tu fasses des ventes aussi. Il faut que tu ailles voir les fournisseurs avec nous. Il faut que tu voyages parce qu'on a découvert beaucoup, beaucoup de choses les premières années. Et lui, il avait pas le temps, pas les moyens et pas la même envie de prendre des risques, pas la même possibilité de prendre des risques. Donc voilà, et ça a déclenché pas mal de conflits par la suite.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux faire un site comme le tien, finalement, ça va te coûter 0 euros. Il y a des CMS qu'on appelle, donc des trucs comme Shopify ou WordPress, si tu veux avoir un truc un peu plus développé, qui, sans aucune connaissance de code, te permettent de faire un site méga, méga clean. Il y en a plein, et qui sont dans la toolbox. Mais ouais, à quelques années près, aujourd'hui, c'est même pas une question, en fait. N'importe qui peut faire un site aussi beau que le tien en 2 jours, quoi, sans aucune connaissance. C'est dommage.
Certainement. Ouais, on est en 2009, il y a plein de choses qui n'existent pas. L'entrepreneuriat, c'est pas encore ni à la mode, ni il n'y a pas d'incubateur, il n'y a pas de trouver les bureaux et une galère. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, d'erreurs qu'on fait au début, qu'on ne ferait plus aujourd'hui, grâce à l'expérience, et aussi parce qu'il y a plein de trucs qui existent.
Donc là, le site est live. Bon, c'est sympa d'avoir un site live, mais ça ne sert à rien. Comment est-ce que tu fais pour ramener des gens, faire les premières ventes? Comment ça se passe?
Le site est live mi-février, le 17 février 2010 exactement, donc on a un petit mois de plus que prévu.
Soir de remontada.
Ouais. Ouais. Et beau souvenir, mauvais souvenir. Mais non, 17 février 2010, c'est un beau souvenir. Le site est live à midi et à 13h, on sort notre première demande de devis. Le téléphone sonne, quoi. Donc on court comme des petits fous. Et dans l'appart, on
est. Donc
était
attends, t'as mis quoi? T'as mis des pubs Facebook? Enfin, il n'y avait pas Facebook à l'époque.
Non. Si, il y avait Facebook. Mais on fait Google. Google AdWords. Google devient.
Quoi comme mot-clé?
Meilleur ami.
Enterrement de vie de garçon.
On achète deux mots-clés, enterrement de vie de garçon et EVG. Alors on fait un business plan, mais hyper hyper simple. On fait nous-mêmes nos campagnes Google et on dit on va mettre 1 euro du clic. On est prêt, c'est un système d'enchères. On nous dit on est prêt à mettre 1 euro du CPC sur EVG en termes de vie de garçon. Notre chance à ce moment-là, bon, on calibre quand même à peu près pas trop mal nos campagnes. On se dit on met 30 euros par jour. On se dit on a un budget communication de 1000 euros par mois et on, voilà, on se lance en février. Donc on,
et d'où tu les sors ces 1000 euros du coup? Tu les avais quand même de côté un peu. T'avais mis un peu dedans?
Non. On va voir notre banquier, enfin, on va voir un banquier au CIC à Saint-Maur, Joël, que je remercie encore de nous avoir fait confiance à ce moment-là. Mais bon, Joël, il nous prête 15 000 euros, quoi. En fait, on fait un crédit conso, hein. On s'en rend pas compte à l'époque, mais on met des assurances sur nos têtes et tout. On est aux ACEDIC, enfin au Pôle emploi, et on touche une somme raisonnable. Et le mec, il se dit, ils vont le rembourser leur crédit de toute façon. Donc, Joël nous prête 15 000 euros. Donc, le CIC nous prête 15 000 euros, mais c'est rien du tout. Enfin, à ce moment-là, on n'a pas de love money, on n'a pas d'argent de nous de côté, on n'a pas levé de fonds, on ne sait même pas que les levées de fonds existent. Mais avec nos 15 000, il y a 10 000 alloués à Google. Donc, et 5 000 qui est alloué à faire des déplacements et à aller découvrir les destinations. Donc, on achète les mots-clés sur Google et à l'époque, il y a très très peu de concurrence. Donc, voilà, dès qu'un mec tape EVG, il voit notre site, il clique, ça le fait marrer, il appelle. Et nous, on est là après en première ligne pour vendre.
Et du coup, vous remontez très vite en référencement naturel aussi, non?
Et on remonte très très vite en référencement naturel parce qu'il y a très 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 peu de concurrence. Et c'est aussi ça qui nous donne l'idée. C'est-à-dire quand le jour où on a.
Référencement naturel, pardon. C'est le fait de remonter tout seul sur Google. Quand tu fais une recherche EVG maintenant, j'imagine, si tu fais EVG sur Google, tu vas tomber directement sur ton site parce que tu as beaucoup de trafic, etc. Donc ce qui te permet, on t'en promet, de plus acheter l'annonce ou alors d'acheter moins d'annonces parce que tu arrives déjà en premier.
Exactement. Et bon, ça, on n'en a pas conscience au début, forcément. Mais c'est vrai, quand tu tapes EVG à l'époque, en 2010, tu as du paintball à Cergy, du quad à Fontainebleau et un strip club à Paris dans le 17e. Et donc, on se dit, nous, en proposant des séjours à Budapest, à Cracovie ou Barcelone, les mecs vont kiffer, ils vont cliquer, ils vont nous appeler. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, eux, ils ont des budgets relativement limités à cette époque-là, nos concurrents. Donc, nous, même avec nos 30 euros par jour, on existe hyper vite, hyper bien.
Et la première vente, elle intervient au bout de combien de temps?
Premier client qui appelle,
ouais, le premier.
Premier client qui appelle.
La charge du débutant quand même là.
Un peu, mais en fait, c'est assez bien calibré parce que le mec qui tape EVG sur Google, t'as 99 chances sur 100 qu'il soit témoin d'un mariage et on est au mois de février, t'as 100% de chance que le mariage il ait lieu au mois de juin ou au mois de juillet. Donc le mec il est en galère, il a des questions et il a une pression de ouf. Quand t'es témoin, t'as une pression de ouf, tu veux éclater ton pote et tout. Et là, il tombe sur deux gars qui ont déjà fait 3 EVG à Barcelone, Budapest et Cracovie.
T'as mis des photos de ces EVG-là
Ouais, le site, au début, c'est que des photos de nous, quoi, dans nos destinations. Donc, et les premières destinations qu'on met en ligne, c'est les destinations qu'on connaît.
Il y avait quoi en ligne? Il y avait Budapest, Cracovie et Barcelone direct?
Ouais, Budapest, Cracovie, Barcelone direct, qui sont toujours dans le top 5 aujourd'hui, d'ailleurs. Et après, on avait ajouté Marrakech, parce que la femme de mon associé est de Marrakech. Madrid, parce qu'il avait fait un Erasmus là-bas. Lui, il connaissait 3 boîtes de nuit à Madrid. Et on s'est dit, ouais, allez, on le met en ligne aussi. Et voilà, quoi, c'était que de l'expérience personnelle qu'on vendait. Et donc, les gars qui nous appelaient, voilà, le premier client, c'est important, il avait déjà son vol pour Cracovie, mais il ne savait pas où aller. Il ne savait pas où aller en boîte et tout. Premier coup de fil, on lui cite les noms de toutes les boîtes de nuit de Cracovie qu'on connaissait. Et il se dit, je veux partir avec ces mecs-là. C'est des experts de la fête, ils connaissent tout. Et donc, la vente a lieu un ou deux jours après. Mais voilà.
Comment tu lui vends?
On lui vend à peu près, il a déjà son vol, donc on lui vend, ils sont une dizaine, ils doivent dépenser entre 150 et 200 euros par tête.
Donc tu fais 2000 balles.
On fait 2000 balles, assez vite. Donc ça fait que début mars, je m'en souviens encore, on est lancé depuis 15 jours et on a déjà fait 15 000 euros de chiffre d'affaires.
Waouh, mais là c'est incroyable. T'as trouvé ton product market fit le premier jour.
Voilà, pour nous c'était normal. Enfin, on disait oui, forcément, on vend des séjours, les séjours sont cool. Et surtout, on n'avait pas de thunes, donc on n'avait pas le choix. Je me souviens encore d'un mail que je fais à mes associés Mathieu et Aurélien fin février. Je leur dis bon, les gars, en mars, faut qu'on fasse au moins 20 000 de chiffres parce qu'il y a ça et ça comme dépenses qui arrivent. Et on a déjà quasiment cramé les 15 000 euros du CIC. Donc c'est oh, on est condamné à faire du chiffre d'affaires. Et ça marche bien.
Ok, donc là tu nous expliques que tu as fait 15 000 balles en un mois. C'est quoi la suite?
La suite, c'est que à ce moment-là, on a la chance de d'un pote d'HEC qui a fait HEC en preneur me branche sur le l'incubateur HEC et me dit que il y a HEC qui accompagne les jeunes entrepreneurs dans la création de leur boîte et que ça pourrait me faire du bien de postuler. Donc il me fait suivre un email, je postule, on est début avril et on va pitcher notre boîte à l'incubateur pour essayer de rentrer et de prendre du coaching, et parce que là tout est gratuit à ce moment-là et ça va nous aider à grandir et à structurer un petit peu la boîte. On rentre dans le programme début avril, ça nous fait beaucoup de bien, on continue à développer notre chiffre d'affaires et en gros les mois d'avril, mai, juin se passent super bien, on fait à peu près 34 chiffres d'affaires, 30 à 40K par mois, donc la saison décolle.
Et est-ce qu'avant ça tu peux nous raconter l'entretien pour rentrer à l'incubateur d'HEC qui est assez croustillant?
Ouais, l'entretien à l'incubateur d'HEC, donc il y a une dizaine de membres dans le jury, des profs, des anciens incubés, il y avait notamment Céline Lazor de Litchi qui était là, je m'en souviens. Et en gros, après nos 10 minutes de pitch, personne n'y croit. On voit que les mecs ils disent c'est quoi ce truc de fête à l'étranger et tout.
Là, tu sens pendant ton pitch que les mecs ils regardent
à côté, ils lèvent les yeux au ciel, on montre des slides, des activités qu'on propose, ça parle, ils me prennent pour des dingues. Ils pensent que...
Ils t'interrompent pendant la presse ?
Oui, ils interrompent pendant la presse pour nous dire plusieurs trucs pertinents ou moins pertinents, mais pour nous dire on se marie qu'une fois, donc votre truc il n'y a pas de récurrence, c'est de la merde. Après on nous dit non, mais une fois t'es marié, une fois t'es pote, une fois t'es petit cousin, une fois t'en fais 10 des EVG dans ta vie, puis tu recommandes et tout ça. Ouais, non, ils croient pas.
On se marie qu'une fois, mais il y a un business autour du mariage quand même.
Et il y a 250 000 mariages par an en France. Enfin, il y avait à l'époque, maintenant c'est peu moins, 220 000.
On se marie qu'une fois, il n'y a pas de récurrence.
Voilà, il n'y a pas de récurrence, votre business ne marchera pas. Une agence de voyage en ligne, les marges sont faibles. Enfin, il y avait des choses qui étaient vraies et d'autres moins vraies, mais on voit qu'ils ne sont pas dedans. Et puis sur notre dernier slide, on a nos 15 000 euros de chiffre d'affaires qu'on a fait en un peu moins d'un mois. Et on dit voilà, on a déjà vendu tant et tout. Et là, les mecs nous regardent et disent, vous pouvez recommencer le pitch, en fait. Et on se rend compte, ce qu'on avait capté, qu'ils ne nous avaient pas trop écouté, mais le fait qu'on ait fait du chiffre d'affaires au bout de 15 jours, tout de suite, ça fait, peut-être que ça marche leur truc, et peut-être qu'il y a vraiment un marché. Vous pouvez reprendre depuis le début. Et ils nous ont fait repitcher une deuxième fois, où là, ils ont écouté.
T'as refait
le
même pitch la deuxième fois ou t'as
Ouais, mais avec le sourire, parce qu'on s'est dit, en fait, on a fait de l'oseille, donc on était peut-être plus convaincants la deuxième fois.
Ouais.
Et là, on voyait qu'ils nous écoutaient, ils nous disaient, mais comment vous avez fait? Mais alors, donc il y a vraiment, en fait, je me souviens, ils re-regardaient des slides sur, des activités à Cracovie. Et donc le mec, là, il nous posait des questions. Donc il y a vraiment des gens qui font ça. Mais bon, il y a des gens qui vont aller tirer à la Kalachnikov à Cracovie, en Pologne. Et je dis oui, on a vendu, etc. Donc, comme il avait vu le slide où il y avait le chiffre d'affaires, là, il écoutait.
Fait, c'est exceptionnel. Une fois dans sa vie, quoi.
C'est assez dingue. C'était les premières activités qu'on proposait. Conduire un tank. Il y a tout ce truc autour de l'armée, de se prendre pour Rambo, qui est assez marrant pour un EVG. Et voilà.
Comment tu l'as pensé, ton produit? Est-ce que quand tu as pensé ces différentes features de dire on va tirer à la Kalachnikov, on va conduire un tank, est-ce que tu avais, tu sais, on dit souvent, faut avoir un persona, donc une cible très précise, etc. Est-ce que tu avais une cible très précise où tu dis, c'est tous les gens autour de 30 ans qui se marient? Comment est-ce que tu avais abordé le truc au début?
C'est une bonne question. En fait, nous, on abordait le truc au début en disant, l'important pour un entame de vie célibataire, l'important pour un groupe de potes, c'est de faire la teuf. Donc, on avait tout axé sur les boîtes de nuit. Il faut qu'on rentre en boîte. Il faut qu'on puisse garantir à 10 mecs qui vont s'éclater, qui vont vraiment se marrer, qui vont pas se faire recaler, qui vont pas se faire entendre dire c'est pas possible ce soir, monsieur, et qui vont rentrer de là des souvenirs plein la tête. Et c'est ça, c'était le postulat de départ. Et on s'est dit, ça parle à tous les mecs et à toutes les filles, à tous les groupes de potes, de faire la teuf. Et c'est après qu'on a commencé à mettre des activités journée. Et qu'on s'est dit, il faut que s'ils partent à l'étranger...
Donc là, les premiers que t'as vendus, c'était juste des boîtes, c'était juste... Non, il y avait un peu...
Non, il y avait déjà des activités. Mais comme je racontais qu'on a eu l'idée en faisant Barcelone, Cracovie, Budapest avec mes potes, dans la journée, on avait quasiment rien fait à chaque fois. On a tellement fait la teuf jusqu'à 8-9 heures du matin que la journée on dormait et on remettait ça le soir. Donc à part à Budapest, on était dans les bains, c'est comme ça que nous a mis la puce à l'oreille, les bains de Budapest qui sont incroyables et tout ça. On s'était dit s'ils vont à l'étranger, il faut qu'ils fassent des trucs qu'ils peuvent pas faire en France la journée. Donc c'est de là d'où est venue voilà la Kalachnikov. Tu peux pas tirer avec ça en France, conduire un char d'assaut à Prague et tout ça. On s'est dit, s'ils vont là-bas, ok, c'est pour faire la teuf, mais dans la journée, il faut qu'ils fassent un truc qu'ils peuvent pas faire à Paris ou ailleurs, des trucs soit qui sont interdits, soit qui sont pas possibles de faire. Et on a commencé à chercher des activités qui ont fait notre marque de fabrique assez vite, en mode bah, je suis allé à Buda, j'ai fait ça, et c'était avec Crazy EVG, et j'ai conduit un tank, ou j'ai fait une catamaran en partie à Barcelone,
enfin,
une
teuf. Parce qu'en fait, finalement, trouver un appart à Buda aujourd'hui avec Airbnb, Booking, c'est facile. Finalement, c'est dans ces activités-là que t'es indispensable, parce que sinon, ok, il y a la boîte peut-être, mais encore, est-ce que ça recale vraiment en boîte à Cracovie? Mais en fait, c'est surtout sur ces activités-là, jamais personne va se chauffer pour trouver un mec qui va faire de la tirée à calage, et il sera pas testé, et t'auras trop peur, et tu vas jamais faire ça.
C'est sur sur l'organisation en elle-même qu'on a une vraie valeur ajoutée. Donc, il y a le choix des activités, il y a le fait qu'on les ait testées, comme tu dis, parce que ça, c'était un gros axe de développement pour notre boîte, c'est vraiment d'aller sur place. On était dans un secteur, le tourisme, qu'on connaissait pas et qu'on n'avait pas envie de faire sur des salons où tu vas, tu prends la brochure d'un mec, tu regardes ce qu'il a à vendre et tu le mets sur ton site en ligne. C'est un peu comme ça que marchait le tourisme à l'époque, qui marche encore beaucoup aujourd'hui. Un salon comme Tom Preza, tu rencontres le mec qui vend l'Espagne, il a tout son catalogue de l'Espagne et tu prends. Non, nous on est allé sur place, on a testé les activités. Surtout on a voulu découvrir de nouvelles choses, donc en toquant aux portes, en allant parler aux gars et tout ça. Et quand on est revenu, à chaque fois, on rentrait de nos séjours avec de séjours de développement. Donc, c'était assez cool, hein, développer à Budapest en testant des activités de dingue et tout ça. On pouvait dire à nos clients, on l'a testé, ça se passe comme ça. C'est à 20 minutes de route de Buda, t'es encadré par un instructeur qui est le mec qui forme la police d'élite de Budapest. Et on pouvait donner un maximum de détails pour rassurer les gars et pour leur dire, ouais, tu vas pas faire un paintball en fait, tu vas tirer à la calache et faire des trucs complètement différents. Et c'était hyper important pour nous de l'avoir testé pour pouvoir l'expliquer et pour pouvoir rassurer les clients.
Et donc du coup, t'as pas pensé à un persona marketing plus précis que ça? C'était
non,
on va faire la teuf, on a 30 piges, on va kiffer.
Voilà, c'était un peu naïf peut-être au début, mais on s'est dit, on a 28-29 ans, tous nos potes aiment ça, les potes de nos potes aiment ça, tout le monde veut faire la teuf, tout le monde veut marquer le coup. Au mariage, t'as pas le temps de te voir entre potes, donc c'est à l'EVG que ça se passe et que tu te retrouves, parce qu'au mariage, il y a 150 invités, tu croises avec tes potes et tout, tu le maries, tu le vois pas, il est toujours en train de faire des photos et tout. Et donc on s'est dit, à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire avec tes copains pour marquer le coup, pour se retrouver, pour avoir des souvenirs plein la tête? Et on s'est dit, voilà, c'est s'éclater, faire du sport, faire des activités un peu dingues et faire la teuf.
Donc là, t'es pris à HEC incubateur, ça commence à se développer un peu. Voilà, comment ça se passe ces premiers mois où en fait finalement c'est quoi tes galères là qui te tombent sur la tête à ce moment là
Il y en a plein, je sais pas par où commencer parce que on a fait mille conneries, mais
acheter les 33%.
Ouais. Bah, HEC incubateur, je me souviens, ça dure à peu près un an le programme. On était très souvent pris en exemple de ce qu'il fallait pas faire, parce qu'il y avait beaucoup de gens. Enfin, on était des promos de 6-7 boîtes, mais on était les seuls, quasiment les seuls de notre promo à être lancés à faire du chiffre d'affaires.
Dans ta promo, il y a des boîtes connues aujourd'hui?
Non. Il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu. Et ceux avec qui j'étais pote n'ont pas survécu.
C'est important de le dire. Vous étiez quoi, 8 boîtes?
Ouais.
T'es peut-être la seule qui a survécu? Alors que c'est l'incubateur d'HEC qui est quand même assez select, etc.
Ouais.
Voilà, faut que les gens sachent que un survivant sur 8 dans un incubateur un peu prestigieux.
Ouais, bah, je pense que c'est à peu près des stats cohérentes.
Complètement. Voilà. Les gens parfois l'oublient.
Ouais, j'avais on avait beaucoup sympathisé avec les mecs de Chac qui faisaient des burritos, donc ils ont survécu. Donc c'est de la restauration rapide mexicaine. Je crois qu'ils ont toujours leur resto ouvert à Châtelet, mais après ils sont partis faire autre chose parce que c'était pas rentable. Le resto existe toujours, donc ils ont survécu, mais ils sont plus dedans. Et la promo d'en dessous, il y avait Litchi, Céline Lazare. Donc il y a eu quelques beaux succès juste avant. Et ouais, l'incubateur, il nous prenait en exemple parce qu'on faisait déjà du chiffre, donc on avait des clients et tout ça, mais on avait fait que de la merde sur nos statuts, on faisait que de la merde sur nos campagnes Google, on cramait beaucoup trop de pognon par rapport au vrai coût du mot-clé qui nous intéressait. Notre pricing était à chier. On avait toujours,
on était
toujours
le. T'avais pas peur de faire des erreurs que justement t'allais aussi vite?
Ah ouais, on avait peur de rien. On était sûr que notre produit était génial. On était sûr que nos clients allaient kiffer notre produit et on voulait être en ligne le plus vite possible. Nous, tu parlais un petit peu tout à l'heure de voilà comment on a défini notre produit, etc. On n'avait fait aucune étude marketing, hormis il y a 240, 250 000 mariages par an en France. Si on touche 1% des mariages, ça va cartonner. Et c'était notre seul benchmark, notre seule étude marketing faite avant.
Et la concurrence?
La concurrence, c'était le strip club de Paris 17e.
Zéro voilà. Agence.
Il y avait zéro agence. Il y avait personne qui te proposait d'aller à
Même aux US, il y avait aucun exemple des trucs.
Une bonne question. On regarde aux US, il n'y a rien. Et en fait, on regarde pas beaucoup plus proche de chez nous, mais un petit peu de temps à le voir, qu'en Angleterre. Il y a une dizaine d'agences qui font ça. Et en fait, on s'en rend compte, c'est en allant à Budapest, à Cracovie, rencontrer des mecs, les mecs qui tirent à la calage, les mecs qui font du tank, ou les mecs qui te font rentrer en boîte, en disant, ouais, comme les groupes d'anglais. Et en fait, ils nous disaient comme les groupes de stag. Et en Angleterre, le terme, l'équivalent d'EVG, c'est stag. Stag.
C'est
de...
pas bachelor party.
Non.
C'est aux yeux.
Voilà. Et c'est
ça,
pour
fait.
Ça. Et c'est pour ça qu'en tapant bachelor party, on voyait rien. Et qu'on comprend que le mot, c'est stag do pour les garçons et hen do pour les filles. Et stag, c'est le cerf, donc c'est le mâle dominant. Hen, c'est la poule. Et c'est des mots juste anglais. C'est pas un mot américain ou australien et tout, en anglais. Ça. Donc tout le monde parle de stag do. Donc là, on Google stag do. Et là, on voit
plein d'agents.
Masse de boîtes qui font ça, une dizaine de boîtes et tout. Et là, on voit la concurrence. Et ils nous ont un peu balisé le chemin parce que résultat, quand on arrivait à Budapest, à Barcelone, à Prague, il y avait les mecs comprenaient autant en France, quand on pitchait notre boîte, personne comprenait ce qu'on faisait, surtout les anciens. Autant à Budapest, Barcelone, tout le monde comprenait ce qu'on voulait faire.
Vous amène le marché.
Ouais, machin, tac, voilà. Okay, et nous, bien. Voilà. Et nous, on est post-crise de 2008. Donc quand on commence à voyager tout, c'est 2009-2010. Le marché a diminué, les Anglais voyagent beaucoup moins. Et donc, il y a plein de mecs qui nous ouvrent les portes super rapidement. Vous voulez nous apporter un nouveau business, des Français. Les mecs nous regardent, ah, mais les Français font la fête aussi. Enfin, ils se foutent un peu de notre gueule. En mode, ils croient qu'avec les Anglais qui venaient se taper des pintes à l'étranger et tout. Mais ils disent, bah, si tu ramènes des clients, vas-y, fine.
On les fait entrer, tout t'inquiète.
Voilà. Donc ça part comme ça. Et pour la petite histoire marrante, quand on voit que des concurrents anglais existent, on commence à trouver leur chiffre d'affaires, à voir que là, et ça, nous, on est déjà lancé. Donc, on les découvre après 6-7 mois d'activité et on se dit on va aller les voir, on va faire une visite mystère. Ça j'encourage beaucoup entrepreneurs s'ils peuvent le faire dans leur business à y aller, prendre nos billets de train pour Londres, on leur envoie un mail en disant on veut envoyer des Français à Londres, on voit qu'eux ils ont aussi leur marché domestique, qu'ils organisent des enterrements de vie de célibataires à Londres, à Newcastle, et on dit c'est quoi la meilleure destination anglaise, on veut la faire découvrir aux Français. Le mec nous répond super simplement c'est Newcastle notre meilleure destination parce que c'est la pointe la moins chère en Angleterre, donc c'est là où on va se peinter la gueule, c'est à Newcastle. Et il nous dit bah venez on vous fait découvrir Newcastle, rendez-vous au bureau à Londres et puis après on part ensemble à Newcastle. Et en fait, nous, on est en voie de visite mystère. On veut juste découvrir comment marche le business. On arrive dans une boîte, je m'en souviens encore, ils sont une cinquantaine, un grand plateau à Londres, plein centre et tout ça. Et on est encore que deux, enfin on est trois à l'époque. Et là, on voit que ça peut marcher, qu'on peut créer une boîte. On est au mois de septembre, donc nous, on est lancé depuis 6-7 mois. On a fait 154 chiffres d'affaires, mais on leur demande.
150 quand même. Et c'est avec une marge, c'est quoi la marge 20%
La marge à ce moment-là est très très faible. Parce que la première année, on fait plein de conneries, notamment sur le pricing. On part d'un principe très bête que on va prendre 30 ou 40 euros, c'était 40 euros par personne. C'est pas une marge de pourcentage. On se dit voilà, si chacun nous paye 40 euros pour organiser son EVG, on fait des multiples. Je pense que c'est aussi à l'époque, on se dit ça rentre vachement bien dans le business plan et on multiplie le nombre de clients par 40 pour avoir un truc. Alors qu'un mec qui dépense 400, ben faut voilà, ça fait 10% de marge, c'est débile. Et le mec qui dépense que 100 euros, ça lui fait beaucoup trop. Bon, bref, c'est connerie du début, mais la marge est très très faible à la fin de l'année. On est à entre autour de 15% de marge, donc ce qui est pas du tout.
Et tes opérations, c'est toi qui les gères, c'est toi qui es au téléphone, tu fais tout?
On fait tout.
Tu vas au EVG avec les mecs aussi?
Alors non, et c'est justement ce que les gens croient à chaque fois qu'on pitch notre boîte, c'est ah ben on, tous les week-ends avec des clients. Bah non, en fait on en avait déjà trop, comme on fait 150 000 euros de chiffre d'affaires, il y a déjà quasiment 1000 gars qui partent avec nous la première année, donc on n'est pas avec eux. On part 1000
clients la première année, c'est fort.
Ouais. Bon, c'est cool, ça validait notre business model, ça validait notre idée, surtout pas le business model parce qu'on n'en avait pas encore vraiment, mais ça validait l'idée. Et ouais, on n'a pas le temps de partir avec eux, quoi. Et on part avant, en amont, on repère, on négocie les activités. C'est génial, on découvre vraiment, on fait toutes les boîtes de nuit. On fait à chaque fois qu'on va à Budapest ou à Cracovie, on fait 5-6 boîtes de nuit dans la nuit pour tester toutes les musiques. On prend des notes en rentrant de boîte, on se fait tout pitch qu'on va raconter aux clients et voilà et on négocie nos partenariats en même temps qu'on est en train de vendre aux clients. On fait tout en même temps la première année.
Et t'as pas eu envie de lever des fonds à ce moment-là? Quand tu vois des beaux chiffres comme ça, tu peux dire, putain, je peux conquérir l'Europe, là. Le monde, même.
On lève pas des fonds pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est, même si on a commencé à rentrer à l'incubateur HEC et tout, il y a pas beaucoup de mecs qui ont levé des fonds, et il y a pas beaucoup de, bon, c'est pas hyper démocratisé comme aujourd'hui, c'est pas aussi facile. Le deuxième truc, c'est qu'on n'a pas besoin, en fait, on a un BFR négatif, on a toujours de la trésorerie d'avance, parce que même après la première année on fait 150 000, mais dès la deuxième on fait 1 million. Donc et le million on l'encaisse assez tôt dans l'année, donc et on se paye toujours pas, donc la trésorerie est là.
Ça donne même pas des petits dividendes à la fin de l'année.
Non, notre REM c'est les kiffs qu'on fait en développant la destination, quoi. On s'est créé le meilleur job du monde, on voyage aux quatre coins de l'Europe. C'est-à-dire que la première année, je crois qu'on doit visiter une quinzaine de pays, quoi. Donc notre REM c'est les notes de frais. Mais qu'on dépense vraiment. Notre comptable hallucine sur les notes de frais. Il dit, vous êtes créé le meilleur job du monde. Vous êtes les seuls gars à pouvoir passer en expense des strip clubs, quoi. Et ça le fait marrer. Mais nous, on fait, bah ouais, mais c'est le taf. Hein. Et il dit, ouais, non, vous avez le droit. Hein. Il me dit, c'est mon client opticien, quand il revient avec une note d'un strip club, je lui dis, bah non, Roger, tu peux pas expenser ton strip club.
Avec un client énorme.
et vous, ouais, bouteille de vodka en boîte, strip club, vous pouvez tout expenser. Vous devez kiffer, les gars. On dit, ouais, on kiffe, ouais. Mais on fait kiffer nos clients. Donc, on est cohérent par rapport au produit. Pour revenir sur la levée de fonds. Et aussi, en fait, on kiffe tellement notre boîte qu'après, quand on commence à découvrir le monde des levées de fonds et tout, on voit que il faut raconter quand même une sortie au fond. Il faut dire, voilà, donc il faut raconter où c'est que tu veux aller. Et nous, on ne doit jamais quitter notre boîte, quoi. On adore, on a créé la boîte pour kiffer, pour être indépendant, pour travailler ensemble. Parce que Aurélien, j'ai pas assez dit, mais c'est mon meilleur pote. On se connaît depuis la sixième. On s'est rencontrés, on avait 10 piges. Et en fait, quand voilà, ça arrivait à un moment donné sur les 10 ans de crédit, peut-être qu'on y reviendra, qu'on rencontre des fonds et tout ça. Mais ça nous parle pas du tout, quoi. On veut pas, à un moment donné, lâcher notre boîte, revendre, tant qu'on s'éclate et qu'on développe des projets. On veut rester indépendant.
Et donc, petit à petit, ta boîte se développe, tu défonces tes concurrents. Pourquoi tu les défonces? Pourquoi toi, t'es meilleur qu'eux?
Comme beaucoup d'entrepreneurs, tu fais la différence par l'exécution. L'idée, elle est marrante au début, elle est ce qu'elle est. Mais d'aller sur place, d'aller négocier, en fait, quand tu vas à Buda, quand tu vas à Prague et tout, tu rencontres les gars. C'est pas t'envoies un mail et tu demandes une grille de prix. Tu vas voir les gars, tu négocies, tu comprends c'est quoi son business. Donc tu reviens plus fort avec des meilleurs prix. Tu reviens plus fort parce que tu connais le produit et tu peux le vendre. Au début, je te dis, on fait tout. Donc on négocie avec les prestats et on fait les calls avec les clients. Tu sais comment vendre, tu sais comment raconter une expérience au client et tu maîtrises toute la chaîne de valeur et derrière quand on a croisé d'autres concurrents et tout, des mecs qui ont essayé de faire comme nous, qui nous ont copié, etc. Après, les gars dans leur budget de développement, déplacement et tout ça, ils savent pas de quoi ils parlent, quoi. Ils vont pas sur place. Donc nous vraiment c'est dans le kiff qu'on s'était créé de se déplacer, d'aller sur place.
T'as créé ta force.
On crée notre force. Et jusqu'au bout, si je fais une petite parenthèse sur ce qu'on est aujourd'hui, nos sales aujourd'hui, on les emmène avec nous dans les pays. Il faut qu'ils découvrent les destinations, il faut qu'ils puissent le vivre. Parce qu'un des meilleurs arguments de vente, c'est j'y étais la semaine dernière. Ah bah oui, quand j'étais à Barcelone la semaine dernière, ouais, au Choco, machin et tout, la bouteille elle est à temps. C'est en donnant des arguments comme ça d'expertise, en prenant une casquette d'expert au téléphone, que le gars il va se dire, je vais faire mon EVG avec Crazy EVG, pas le faire tout seul, ça va être moins bien. Il faut qu'ils le sentent. Et il n'y a rien de mieux que d'aller sur place et négocier, tester, comparer pour après l'expliquer au client.
Magnifique. Et ensuite, donc, tu bouffes un peu tes concurrents et tu décides d'ouvrir un bureau à l'étranger. Maintenant, tu as plusieurs bureaux. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà dans quel pays tu as ouvert et comment ça se passe quand on veut ouvrir un bureau à l'étranger?
Ouais, alors nous, l'internationalisation, elle vient assez rapidement. On voit que ça existe en Angleterre, mais on voit que ça existe pas en Allemagne, en Italie, en Espagne. Donc l'internationalisation, pour nous, c'est deux axes. Le premier, c'est de trouver, faire voyager des clients étrangers, donc faire voyager des Allemands, des Italiens. On traduit le site on est en 2012-2013, on traduit le site en allemand, en néerlandais, en espagnol et en italien. Et là, on reste à Paris et on embauche des stagiaires de chaque pays qui nous traduisent le site. On fait tout en autofinancement et on va chercher des clients étrangers en appliquant la même stratégie qu'on a eue en France, acheter le mot-clé sur Google. EVG en allemand, ça se dit JGA. On achète le mot-clé JGA. Le mot entier en termes du garçon, c'est Jung Zellenbapschit. Enfin, je sais pas le prononcer, mais c'est très très long, ça doit faire 27 lettres. Mais JGA, c'est facile à acheter, l'autre aussi, mais voilà, au coup par clic, on y va. On fait pareil en Italie, à Dual Tulibat, et en Espagne, Despedida de Soltero. Donc on achète tous ces mots-clés et on travaille notre site. Donc on part pas tout de suite à ouvrir le bureau, depuis la France on fait rediriger les numéros de téléphone espagnol, allemand et tout au bureau de Paris, et les gens décrochent et ils parlent, voilà, on prend des natifs,
le stagiaire italien,
le stagiaire allemand, Lucas, Rebecca, machin, et ils parlaient directement.
Les mecs qui sont juste expats, qui sont en échange,
ouais, qui sont en échange. Je me souviens, il y avait un mexicain qui était à l'ESCP, il y avait un autrichien qui était voilà, je sais plus où, à Paris, et voilà, on prend en stage, et puis les meilleurs, mais surtout les marchés qui marchent, notamment l'Allemagne. Le gars, après, il devient un de nos premiers CDI, on le prend derrière dans la foulée. Donc au début, on s'internationalise depuis la France. Et puis après, l'autre internationalisation, c'est qu'on voit très vite que sur place, des fois, on passe par des agents qui sont en fait des réceptifs locaux et qui prennent aussi une marge sur les activités. Donc nous, on se rend compte assez vite avec Aurélien que eux, ils prennent 20 points, nous aussi, et qu'au final, le client se retrouve à payer quand même un peu cher par rapport à ce que c'est. Et on se dit... il faut qu'on soit sur place, qu'on négocie en direct avec les gars. Pour négocier avec des Hongrois ou avec des Slovaques, avec des Tchèques ou des Polonais, c'est mieux si tu parles la langue. Et là, bon, y a personne qui, on va dire, on va pas prendre un stagiaire slovaque à Paris. Donc on décide d'ouvrir un bureau à Bratislava avec des gens qu'on a rencontrés petit à petit, comme on voyage beaucoup, comme je l'ai dit depuis le début. Et on ouvre notre bureau pour que eux soient nos acheteurs, en fait. Donc l'internationalisation, elle passe par le recrutement de clients étrangers et aussi par internaliser tous nos achats, et donc on décide d'ouvrir un bureau à Bratislava où on embauche des gens de différentes nationalités. Bratislava, c'est assez bien situé, c'est pas trop loin de Prague, pas trop loin de Budapest, pas trop loin de Cracovie, et c'était un bon pôle pour nous pour commencer. Et surtout la monnaie en plus, c'est l'euro, donc c'est assez simple pour tout, voilà, parce qu'on a toute notre business unit qu'on crée là-bas, et on ouvre un bureau à Bratislava.
T'as pris un business, un country manager,
ouais,
local,
voilà,
comment nous, tu l'as trouvé, il parlait français.
Alors comment j'ai trouvé, c'est pas super bien passé. On l'a trouvé parce qu'il travaille pour un des concurrents, enfin non, pour un de nos fournisseurs. Il travaille pour un de nos fournisseurs, donc il travaille pour une agence locale basée à Bratislava. Il avait accès à tous les prix, il faisait les achats pour l'agence. Donc, et c'était une fille, et elle nous, Michi, elle nous dit lors d'un déplacement à qui ferait travailler pour nous, et qu'on l'amène gentiment sur le tapis, hein, dans un restaurant, un dîner, combien on gagne, qu'est-ce qu'elle fait, comment se passent les achats. Et on se rend compte qu'il y a plein de trucs qu'on paye super cher qui coûtent vraiment pas cher. Elle nous lâche un peu des prix directs. Et puis on lui fait une offre, elle dit oui, et puis petit à petit après, voilà, on la met à la tête du bureau et elle recrute d'autres gens pour nous, et nous on se déplace assez souvent là-bas pour développer le business avec elle. Et au même moment, on veut se lancer, on était plein d'ambitions, on veut se lancer au UK, et au UK on n'arrive pas à percer parce qu'il suffit pas juste de lancer un site, donc on rachète une boîte. Donc on a vécu l'expérience de l'internationalisation en ouvrant notre propre bureau à Bratislava et en rachetant une boîte basée à Londres qui s'appelait Maximize, et qui était 5-6e acteur du marché des EVG en Angleterre. Et là, grosse galère managériale, c'est que quand t'as 3 bureaux, comme une petite boîte de 45 personnes, et que t'incarnes beaucoup la boîte, comme Aurélien et moi on le fait, on a eu du mal à créer un peu un middle management dans la boîte, donc on fait encore beaucoup beaucoup de choses. Manager 3 bureaux, Paris, Bratislava et Londres, en étant que deux, en ayant des gamins, et tu te crames un petit peu, quoi. Donc l'internationalisation, c'était cool, mais on a pris des belles tartes. Pas évident en termes de management.
C'est quoi ton conseil à des personnes qui ouvrent aujourd'hui leur bureau à l'étranger?
C'est un conseil qu'on nous avait donné qu'on n'a pas suivi. Je vais le répéter en disant que c'est très important. C'est qu'en fait, il y a un des associés qui doit ouvrir le bureau et qui doit aller vivre là-bas. Notamment à Londres, quand on ouvre Londres, je me souviens d'un de nos coachs de l'incubateur HEC, Étienne Krieger, que je remercie pour beaucoup de choses et qui aurait dû insister sur ce point. Et il nous dit, les gars, vous pouvez pas pénétrer le marché anglais, qui est le plus gros marché, sans aller vous installer là-bas, quoi. Et nous, on croit qu'on va voilà, on se croit encore fort et tout, qu'on va tout faire depuis Paris. On a nos achats à Bratislava, des sales à Londres, des sales à Paris, et on est toujours entre deux trains, deux avions et tout, on n'arrête pas. Mais on n'est pas sur place, quoi. Et y aller, même si tu vas un jour par semaine, on se dirait avec l'Eurostar, on va gérer, on y va un jour par semaine. C'est pas pareil. C'est pas pareil quand t'es pas là. Et Étienne nous cite l'exemple de Big Mama en nous disant, voilà, les gars, ils ouvrent à Londres, ben, y a un des deux associés, parce que Étienne coachait aussi un peu Big Mama à l'époque, et il nous dit, ben, un des deux gars qui part à Londres, quoi. Il veut faire pareil, quoi, les gars. Et nous, on suit pas le conseil.
Alors, c'est intéressant, ça. À l'ère du remote aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi? Et il y a plein d'entrepreneurs comme toi. Moi, j'ai mon beau-frère qui fait des chaussures. Du coup, il va toujours voir ses fournisseurs toutes les semaines en Espagne, au Portugal, en Italie, etc. Pourquoi est-ce que le fait d'être là, d'être présent sur place, parler à ton fournisseur en live et pas juste sur un Skype, pourquoi ça fait la diff?
Je vais parler aux clients. Si je prends le bureau anglais, on a des sales. C'est pas pour les fliquer, voir à quelle heure ils arrivent au taf, etc. Et c'est pour entendre ce qu'ils disent et comprendre le marché. Les Anglais, ils consomment pas la fête comme les Français, en fait. Les Anglais, ils posent pas les mêmes questions au téléphone et tout ça. Et si t'es pas là avec ton équipe et que t'entends pas les remarques que font les clients, t'entends pas les objections auxquelles ils font face, tu comprends pas quelle est la difficulté à pénétrer ce marché et pourquoi les mecs y arrivent pas ou pourquoi ils y arrivent moins bien que tes sales français, tu peux pas corriger les choses aussi vite, quoi. Tu peux pas leur faire des formations, tu peux pas essayer de capter comment se passe ce marché et tu peux pas aussi corriger les tirs parce que le dev et le marketing étaient basé à Paris. Et si t'es pas avec le bureau anglais, qui en fait, tu les écoutes pas, qui se plaignent toute la journée, que le dev, il a pas fait telle fonctionnalité, alors que les Anglais, ils aiment bien payer en 10 fois et pas en 2 fois, et que ça fait 50 fois qu'ils le répètent. Et ouais, ils le disent, ils te font un mail à la fin de la semaine, ouais, il y a ça et ça qui déconne, mais tu passes à côté. Alors si t'es là avec eux et que tu vois comment ça les fait chier, qu'ils arrivent pas à avancer, qu'il y a des points vraiment bloquants sur le site, parce que t'as amené ton site français, on avait mergé les deux sites, et en fait, on leur avait imposé de travailler sur notre back-office, il y avait des trucs qui matchaient pas avec le marché anglais. Mais ils te le disent une fois par semaine ou une fois par mois, mais quand t'es là et que tu t'assois à côté d'eux et que tu le vis toute la semaine et que tu vois comment c'est galère, bah tu vas corriger les choses beaucoup plus vite, quoi. Et tu vas prendre des décisions, tu vas appeler le dev, tu vas dire non, ça c'est une priorité, et tu vas faire en sorte que tes sales ils fonctionnent aussi bien que tes sales français, et tu vas capter le marché, tu vas écouter comment les Anglais te font des objections, comme il y a énormément de concurrence. En France, on avait écrasé la concurrence. En Angleterre, on était les petits challengers, donc on aurait dû aller sur place, vivre là-bas et comprendre.
Tu regrettes comment... pas là, tu pouvais le faire ou...
Ouais, j'aurais pu.
Familialement,
j'aurais pu. Ma femme était, j'avais déjà des enfants et tout, mais ma femme était chaude. Elle commençait même elle à repérer des maisons. Alors, comme beaucoup de femmes, elle adore déménager, décorer et tout. Donc elle voulait qu'on déménage. Elle m'avait envoyé des annonces de maisons sur le Se Loger local. Elle était à Donf, elle. Et moi, pourtant ma mère est anglaise et tout. J'ai un passeport britannique. Normalement, c'était à moi de le faire, quoi.
La famille là-bas.
Ouais, j'ai de la famille là-bas et tout. Et j'aurais dû y aller, quoi. Et Étienne m'avait dit, voilà, ça marchera pas si t'y vas pas. Et avec le recul, il avait grave raison, quoi. Donc ouais, si on s'internationalise, il faut être prêt à bouger.
Et autre sujet, du coup, un peu moins rigolo, que j'aimerais qu'on aborde ensemble. Donc toi, ton business, c'est le tourisme. Le tourisme avec le Covid. C'est le business qui a pris le plus cher de tous. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu cette crise qui est toujours pas finie, j'imagine, pour toi?
On
est mi-juin.
Ouais, pour ceux on est mi-juin,
qui écoutent plus tard.
C'est pas encore fini, ça commence à aller mieux. Je peux en parler aujourd'hui un peu plus sereinement qu'il y a 3 mois. Mais nous, on l'a pris de plein fouet. Je me souviens encore, enfin je m'en souviens toute ma vie, le jour où les gars de Prague m'appellent, mes fournisseurs à Prague, mes équipes locales, parce qu'on a des équipes locales, des guides et tout, qui accueillent les clients, qui me disent Prague ferme ses frontières, quoi. C'était le jeudi, ça devait être jeudi 12 mars, et ils m'appellent en me disant les clients de ce week-end, ils peuvent plus venir, quoi. Et ça y est, ça commençait, quoi. Alors, Macron avait pas encore parlé et tout ça, on savait pas qu'on allait être confiné, enfin on avait suivi, l'Italie était déjà confinée et tout, mais on prenait pas conscience. Donc là, ce jour-là, tout s'arrête. Très vite, on met la quasi-totalité de l'équipe au chômage partiel. Enfin là, on comprend tout de suite avec Aurélien que les gens vont pas voyager pendant plusieurs mois. Ça arrive à la fois
pendant la saison des
pire pendant la saison, voilà, au pire moment pour nous, parce que tous nos séjours vont être annulés. Les gars vont pas pouvoir aller faire leur EVG. Et en même temps, presque ce qui nous sauve aussi à ce moment-là, c'est qu'on a beaucoup de trésors parce que les gens ils ont déjà payé. Donc c'est chaud à vivre parce qu'il faut leur expliquer que on peut pas les rembourser tout de suite, etc. Qu'il faut qu'on attende. On en a le trésor, on met toute l'équipe au chômage partiel hyper vite, enfin le vendredi 13 mars au lendemain du premier discours de Macron, et on se dit voilà, on coupe tout, on coupe les campagnes Google, on arrête de, on envoie un mail au bailleur, on dit on payera pas le bureau là, c'est mort et tout, on coupe tout et on commence à attendre, mais surtout à réfléchir à la suite, quoi, à réfléchir à qu'est-ce qui se passe si les frontières rouvrent pas, qu'est-ce qui se passe si notre année elle est blanche, on refait tourner les BP, et qu'est-ce qui se passe dans le futur du tourisme festif dans lequel on est implanté. On a une boîte, voilà, cette année on avait prévu de faire 12 millions, on était toujours en croissance. Comment on va s'en sortir, et on décide assez vite avec Aurélien qu'il faut qu'on se recentre sur nos activités en France, parce que je parle beaucoup depuis le début de Budapest, Prague, Barcelone, etc. Mais on se dit si les frontières ouvrent pas tout de suite, et on sent que ok, il y a le confinement et tout, mais qu'au bout d'un moment les gens ils vont vouloir quand même aller faire la fête, quand même sortir et tout entre potes, se revoir, qu'il y a plein de choses qui se sont digitalisées pendant cette crise, mais que tu vas pas digitaliser un truc entre potes. Je me souviens encore d'un fournisseur à Malte qui me dit ok, on va faire des EVG en ligne, la stripteaseuse sur Zoom elle va faire le truc et tout, c'est 25 balles par tête et tout. Je dis non, no way mec, no fucking way, on va pas faire un EVG en ligne, enfin là ok c'est compliqué,
c'est glauque,
et tout
là, ça c'est glauque, glauque, ouais.
Et il dit bah ouais, 25 balles, et il m'envoie tout son pitch et tout, il me dit voilà, tous ceux qui devaient aller à Malte cette année, bah nous on va le faire en ligne pour 25 balles par tête. Il me dit envoie ça à tous tes clients. Je dis non, je leur envoie pas ça. On va attendre. Je veux bien qu'il y ait plein de trucs qui se digitalisent, plein de gens qui bossent en remote, plein de business qui bougent. Mais je me dis la fête entre potes, se retrouver entre amis, ça va remarcher. Tu pourras peut-être pas prendre l'avion tout de suite, mais ça va remarcher. Et nous, toutes nos années d'entrepreneuriat, on avait commencé à créer ce qu'on appelle les Crazy Villas. Donc ça c'est des baraques à moins de 2 heures de Paris, où t'as un terrain de five dans le jardin, un billard, un baby-foot, une piscine chauffée, un barbecue, un terrain de pétanque, tout ce qui te permet de kiffer entre potes. Et on en a déjà 6, et on se dit pendant cette crise, on se dit il faut qu'on en développe plus, il faut que on développe une fête accessible à tous rapidement, et qu'on rebondisse entre autres avec ça, qu'on ressente nos activités en France le temps que cette crise passe. Et on pense aussi, là on est encore qu'au mois de juin, que aussi les habitudes vont changer, enfin il y a plein de gens qui disent ouais, le marché de l'aérien il va pas reprendre avant 2023. Alors, en 2020, pourquoi 2023? Mais voilà, qu'il va y avoir un gros ralentissement de la croissance. Il y a des secteurs comme le tourisme qui vont profondément changer. Je pense que les gens vont prendre aussi conscience de peut-être leur empreinte carbone, du fait que voilà, et aller à l'étranger pour un oui, pour un non, sur un week-end et tout ça, ça va sans doute changer. Et donc nous, on pense profondément que t'auras quand même envie de voir tes potes, t'auras quand même envie de célébrer ton anniversaire, ton EVG, ton enterrement de vie de jeune fille, et que il faut qu'on soit capable de proposer des trucs de dingue en France, pas loin de chez toi, où t'es pas à prendre l'avion et que tu peux quand même aller voir tes potes.
Ok. Et raconte-nous comment t'as vécu le service client pendant cette période-là. C'était pas évident. Hein.
Ouais. Alors le service client, bah c'est eu deux grandes phases. Le tout début, fin mars, de mi-mars à fin mars, où on s'est pas tout à fait quoi dire à nos clients. On attendez, et on attend que l'État se prononce sur ce qu'on doit faire des paiements de nos clients, ceux qui ont déjà payé, parce que la loi dit à ce moment-là, quand il y a le shutdown, que on est obligé, cas de force majeure, on est une agence de voyage, rembourser nos clients sous 14 jours. C'est voilà, annulation pour cas de cause de force majeure dans le code du tourisme. Il y a l'article L, je sais pas quoi, qui dit voilà. Et donc il y a pas mal de clients qui commencent à nous le citer, cet article, en disant c'est un cas de force majeure, je peux pas aller à Buda, rembourse-moi mes 200, 300, 400 balles tout de suite, comme le dit le code du tourisme. Sauf que nous, on a déjà payé pas mal de fournisseurs, on a surtout déjà payé les billets d'avion. Je disais tout à l'heure qu'on a un BFR négatif, mais il y a quand même des choses qu'on paye à l'avance. Si on doit rembourser tous nos clients, on est mort. Et on voit que les agents de voyage commencent à se liguer avec le lobbying et tout, et à dire on peut pas. Si on respecte le code du tourisme, on est tous morts, quoi. Parce qu'en plus les compagnies aériennes te remboursent pas, l'hôtelier qui a déjà machin, il te rembourse pas, il est dans la merde aussi, tout le monde est dans la merde. Donc jusqu'au 25 mars, c'est quand même bien la panique. On commence à manger des insultes sur les réseaux sociaux, machin, ils nous remboursent pas. On voit on n'est pas les pires, on n'a pas 50 000, enfin si on a 50 000 clients, on n'a pas des millions de clients non plus. Non, voilà, on voit qu'il y a certains qui font le bad buzz comme voyage privé et tout, qui prennent cher sur Twitter et tout, donc on n'est pas si gros que ça, je voulais dire. Mais on commence quand même à, et moi c'est dur pour moi, la boîte, je vois ma boîte s'écrouler, je vois tous mes gars au chômage partiel.
Tu t'es dit que t'allais mettre la clé sous la porte là?
Ouais, au début, à un moment donné, même si t'es un entrepreneur, que t'as peur de rien et tout, là tu te dis quand même c'est chaud. Tu dis tu vois tous les voyants sont rouges quoi, y a rien de positif jusqu'à ce que l'État dise ok, c'est pas un remboursement en cash, c'est un remboursement sous forme d'avoir. Les mecs ont 18 mois pour partir. Donc là, tu passes des heures à lire l'ordonnance qui fait cette page, tu l'adaptes, tu la présentes sur ton site, t'essaies d'être le plus humain possible parce que tu comprends aussi ce que ressentent tes clients. Ils devaient partir, ils devaient faire la teuf entre potes. Ils avaient tous dépensé 300-400 balles et là, ils partent pas. Mais t'adaptes, voilà, ton discours, tu sais par quoi ils passent. Et puis, en fait, assez rapidement, les gars se calment, le mariage est décalé aussi, le mariage est annulé, malheureusement pour le groupe. Donc quand tu leur dis t'as 18 mois pour faire ton EVG, qu'il y aura un mariage l'année prochaine. Et puis on a reçu quand même aussi à ce moment-là, faut le dire, pas mal de messages de soutien assez vite des clients qui disent ouais, on comprend, force et honneur, allez-y les gars et tout, on est avec vous, on ira à Buda l'année prochaine, ou est-ce qu'on peut y aller en octobre, vous pensez et tout. Donc nous on a une tendance quand même à dire non, reboucle pas ton truc pour juin, juillet ou août, enfin on n'en sait rien, tu vois. On a assez rapidement pris le truc de dire par l'année prochaine, ou alors on garde ton avoir, ou part en France, on te propose autre chose, une villa, machin, et voilà, mais fais-le ton EVG, quoi. Vois quand même tes potes. Ce qui est assez cool dans notre business, c'est que les gars, c'est pas une obligation, ce voyage, c'est un truc qu'ils ont vraiment envie de faire, ils ont envie de se retrouver. Donc si c'est pas maintenant, ce sera plus tard, mais c'est pas un confinement et tout qui va faire que t'as plus envie de voir tes potes. Donc voilà, tout a été décalé.
Wow. Et du coup, t'as continué à réinvestir là? Enfin, tu vas investir dans d'autres trucs? Comment est-ce que tu vois le truc? Parce qu'on dit souvent dans les crises, soit tu coupes les coûts, mais à ce moment-là, quand ça va reprendre, tu vas être dans la merde, soit t'essayes d'investir pour être le leader de nouveau monde, entre guillemets.
Ouais.
Donc, comment est-ce que toi, tu vis ça?
On a coupé beaucoup de coûts, AdWords, les salaires et tout ça, et le loyer. Et en même temps.
Ton bailleur, il était OK avec ça? Ou...
Oui, je vais pas laisser le choix. J'envoie un courrier et je lui dis que je paierai pas, que je suis dans un secteur le plus touché et puis on verra quoi. Mais voilà, ok ou pas ok, on verra par la suite. Mais on a décidé d'investir justement, de développer nos Crazy Villas. Comme je disais tout à l'heure, on en a 6 et on en veut une vingtaine d'ici la fin de l'année prochaine, donc d'ici fin 2021, donc 5 cette année et une dizaine l'année prochaine. Donc on a commencé à repérer tous les trucs à vendre qui nous plaisaient. On a pris plein de rendez-vous pour dès le 11 mai on était taquet, on avait 15 villas à visiter et on s'est dit qu'on allait accélérer là-dessus parce que le tourisme allait changer. Alors c'est loin d'être gagné, on est encore en plein dedans parce que je parlais beaucoup d'autofinancement et du fait qu'on n'ait pas levé de fonds et tout, mais quand tu fais de l'immobilier tu peux te leverager par la dette. Les prêts immo en France pré-Covid c'était assez cool, des taux fixes sur 15 ans, 20 ans, 1%, 1,2%, on demandait 10% d'apport, etc. Bon, là on a trouvé pas mal de villas, on a plein d'opportunités d'investissement. Maintenant, il faut reconvaincre.
Tu les achètes à chaque fois?
Ouais, on les achète.
Donc finalement, t'as un peu le business model de McDo. Tu fais de l'immo maintenant, c'est fini. Tu fais plus du tourisme, tu fais de l'immo.
Ben, on a pas pivoté, parce que j'aime pas ce mot, parce que on reste sur notre ADN de tough entre potes. Mais effectivement, on fait beaucoup plus d'immo. Ce qui est marrant, parce que c'est une idée qu'on m'avait donnée dès le début à l'incubateur HEC. J'avais croisé Victor Auguet qui a fait Urban Soccer, Urban Football, et qui m'avait dit on a des business hyper similaires. Alors il me dit si t'es là pour donner du plaisir aux gens, toi, parce que j'aime bien dans ton business. Il m'avait encouragé à me présenter au Mercurial pour être la nouvelle boîte entrepreneuriale de l'année, et il m'avait dit moi j'adore ton business, mais ton business c'est de l'immo. Je dis non, c'est la teuf, voyage, c'est une boîte de service.
C'est comme dans le film McDonald's.
Ouais, et il me dit non, parce que tes gars, quand ils vont dans un endroit sur place et tout, c'est là où ils vont se retrouver, ça va être important, et tu pourrais mettre une belle barrière à l'entrée. Il me fait moi, tu crois que mon business c'est du foot? Non, mon business c'est de l'immo. Moi, j'achète des entrepôts qui valent rien, j'ai mis des terrains de foot le plus proche possible de la défense ou des Cine Moulineaux, et c'est de l'immobilier que je fais. Il me dit, je me souviens encore de sa phrase, il me dit moi j'aime pas le foot, j'aime le rugby, je fais de l'immo. je rentabilise un espoir. Alors, je caricature un peu ce qu'il m'a dit. Hein, j'espère qu'il m'en voudra pas s'il m'écoute, l'écoute ce podcast. Mais et voilà. Et il me dit et lui dès 2010, il nous met ça dans la tête. Et je crois que je le rappelle la première fois 4-5 ans plus tard, sur la 2014, 4 ans plus tard, en disant. T'avais raison, en fait, Victor, est-ce qu'on peut se reparler de trucs et tout? Et parce qu'en 2014, on achète nos premiers apparts à Budapest. Donc, Limo, on a commencé quand même il y a quelques années. On achetait des apparts à Budapest, à Prague, qu'on appelait les Crazy Apparts, dans lesquels on a mis des trucs super cool pour que tu passes un bon week-end entre potes.
Et l'avantage, surtout, c'est que tu peux pas vraiment comparer ça. Enfin, après, j'imagine que tu les loues quand même sur Airbnb et tout. Mais si tu apportes un appart sur mesure pour le VG, tu sors encore plus de la concurrence parce que c'est des apparts que les concurrents pourront pas avoir. Alors ou même que tu sais on se dit souvent ouais mais attends je vais aller sur Booking, il va pas me prendre 20% sur la réservation d'un appart. Là, tu peux pas en fait.
Non, là on a nos propres produits donc on colle comme je dis directement à notre ADN, on imagine en plus l'appart idéal pour faire la teuf entre potes donc avec des beaux espaces communs, dans les chambres on a des lits superposés parce que quand tu vas te pioter pour après à 6-7 heures du matin, c'est pas là où tu mets de la valeur. Par contre, si le salon il est énorme, s'il y a un bar dans le salon, s'il y a un billard, s'il y a une on met des bornes d'arcade, on met des trucs où tu voilà, tu vas te poser, tu vas faire le refaire le monde en rentrant de soirée avec tes potes. Ça c'est cool et donc là on a vraiment c'est même pas un coup d'avance sur la concurrence, on est les seuls à proposer ça quoi. Les agences anglaises qui existent depuis 15-20 ans, elles n'ont jamais pensé à faire ça. Et après très vite on se dit aussi on va le tester en France quoi, parce qu'il y a des groupes qui nous appellent qui nous disent ouais on veut pas aller à Budin, on veut pas aller à Prague, on a plutôt 35 ans maintenant, c'est notre 14e EVG, on veut juste se poser, faire un barbac entre potes, faire un foot, se retrouver, vous avez pas un truc pas loin de Paris et tout où on est. En fait c'est les clients qui nous donnent l'idée de créer les Crazy Villas au début quoi. Donc on en achète une dans le Loiret en 2017 la première et puis c'est un succès qu'on n'imaginait pas. Et en plus, ça nous permet aussi de sortir un peu de l'EVG parce que, comme tu dis, on le met après sur les plateformes, on le met sur Airbnb, sur Abritel et tout, pour se dire, voilà, en saison basse, quand il n'y a pas d'EVG, quand les mecs ne se marient pas, qu'est-ce qu'on en fait de la villa en octobre, de octobre à mars, grosso modo. Et là, en fait, anniversaire 30 ans, anniversaire 40 ans, cousinade, juste...
Séminaire aussi, pote, non ?
Séminaire, les petits off-site, on a des boîtes, même des grosses boîtes comme Payfit qui louent les Crazy Villas.
Et pour des grosses boîtes comme Stars of Fuck Up aussi.
Et voilà,
il voulait louer ta Crazy Villa, mais il n'y avait pas de place.
Non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Ça marche super bien.
C'est pour ça que tu as invité dans le podcast, c'est pour être pistonné maintenant.
Ah bah, la prochaine qu'on ouvre, alors je te garde le premier week-end, tu fais l'opening.
Chaud.
Donc voilà, donc, on commence à suivre les conseils de Victor des années après. D'ailleurs, il nous reprend en coaching, on le prend comme mentor, justement parce que lui, il s'est recentré encore plus sur l'immobilier, il a revendu Urban Football et d'autres aventures. Maintenant, il est dans le co-living avec la Casa. Et donc, il nous coache vraiment bien. Là, pour le coup, on est bien préparé sur comment financer l'immobilier par la dette, comment faire entrer certains investisseurs et tout ça. Et là, on avait déjà commencé à préparer ça pré-Covid. Je ne veux pas dire que c'est la crise qui nous a donné l'idée, c'est pareil, c'est pas tout à fait, pas non plus raconter n'importe quoi. Mais pendant cette crise, on décide vraiment d'accélérer là-dessus et on se dit que ça peut être un tournant pour notre boîte, mais aussi un tournant pour le tourisme et que voilà, qu'on peut faire des très belles fêtes à Montargis, dans le Loiret, et qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Buda pour s'éclater avec ses potes.
Surtout que les boîtes à Montargis, ça va être quelque chose.
Ah ouais, il y a des belles boîtes, mais on crée des partenariats, on essaie de créer des partenariats avec eux pour leur dire voilà, on a 15 mecs qui sont ce week-end dans une villa à côté de chez vous. On doit créer aussi d'autres types de partenariats avec des boîtes de taxi pour emmener les mecs en boîte et qu'ils soient pas bourrés.
T'as moins la problématique de se faire recal à Montargis qu'à Paris.
Ouais, au final, ça ressemble un petit peu à comment rentrer en boîte à Barcelone ou à Buda. C'est aussi facile à Montargis que là-bas. Puis après, t'es avec tes potes, tu t'éclates quand même.
Génial. Pour conclure cet entretien, j'aimerais qu'on parle un peu de questions un peu plus deep, si tu le veux bien. Pourquoi est-ce que tu entreprends ? Pourquoi ? Toi qui voulais bosser dans le sport, pourquoi ton frère, qui est un très bon ami à moi, il bosse à la Ligue des Champions, il kiffe. Pourquoi tu t'emmerdes à monter ? Pourquoi t'as voulu monter ta boîte ?
Je pense qu'il nous a drivé au début avec Orléans. Il y avait deux choses : l'envie d'être indépendant, vraiment l'envie de. Je me faisais pas chier dans mon job, je kiffais, mais je prenais pas toutes les décisions. Enfin, j'achetais des droits du foot, donc acheter des droits du foot, c'est génial. Tu vois comment marche le business et tout ça, mais tu tu les décisions elles viennent pas de toi, elles viennent de l'enveloppe avec le prix à la fin dedans quoi, et le prix il est mis par le PDG, donc tu mets voilà, c'est des appels d'offres et tu mets bon, pas une grande valeur ajoutée, enfin je caricature un peu hein, mais intellectuellement je me faisais peut-être un petit peu pas chier, mais je voulais que vous l'ayez plus haut, et voilà, j'avais un job hyper formaté avec des réunions, des horaires, des congés payés à prendre et tout ça, et ça m'allait pas quoi, et j'avais envie vraiment d'être indépendant, Aurélien aussi, et on avait très envie de bosser ensemble. On n'avait jamais eu l'idée, mais on se connaît depuis la sixième, comme j'ai dit et tout. Et c'est avant tout une aventure de potes, quoi. On voulait créer un truc ensemble, travailler ensemble, se lever le matin, avoir envie d'y aller, mais même le plus tôt possible, parce qu'on a voilà. Et voilà, créer pour se retrouver, pour être indépendant ensemble, ça c'était vraiment un point clé qui nous a poussé. Et le deuxième, c'est comme le disait Victor, de donner du plaisir aux gens quoi, faire kiffer les gens quoi. Le produit qu'on a créé, le service qu'on a créé, il est complètement en adéquation avec notre ADN, avec ce qu'on aime dans la vie. Et même si j'adore le foot et le sport, je voyais pas comment créer quelque chose autour de ça qui soit sympa. J'avais pas de valeur ajoutée. Là, quand je fais partir des gars à l'étranger, quand je fais partir un groupe qui va s'éclater pour un EVG, je prends du plaisir à l'organiser quand je crée la boîte, et je prends du plaisir à recevoir leur feedback. Pour moi, c'est hyper important. Et quand je vois que j'ai éclaté un groupe de potes qui est parti à Buda, qui serait pas allé à Buda sans nous, qui sont rentrés dans la meilleure boîte de Budapest, qui ont des souvenirs plein la tête, c'est complètement cohérent avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de faire. Et voilà, j'ai toujours envie de donner du plaisir aux gens. J'adore cuisiner, j'adore recevoir à la maison. Et donc créer cette boîte, c'était assez rapidement une évidence, et je m'éclate toujours à le faire.
Quand est-ce que tu vas t'arrêter? C'est quoi la fin logique là de tout ça? C'est quoi ton objectif toi dans la vie? C'est de créer une multinationale et de la liguer à tes gosses, ou c'est de la revendre quand il y a un bon prix pour prendre ta retraite et bronzer? C'est quoi ton objectif?
C'est une question que je me suis pas posée pendant 10 ans, parce que mon objectif c'était de kiffer et de faire kiffer les gens. Et donc tant qu'on s'éclatait, je voyais pas l'intérêt de... Je me disais bien qu'un jour, j'en aurais peut-être marre d'aller en boîte de nuit, marre de voyager, marre de recevoir des feedbacks clients, et puis je serais peut-être plus pertinent pour expliquer comment faire la fête. Je me dis, à un moment donné, je vais avoir 40, 45 ans, 50 ans, expliquer aux gens où faut faire la fête, je serais peut-être plus crédible. Donc je m'étais dit que c'était ça qui allait peut-être me freiner un jour, et que je changerais de business quand je m'éclaterais plus. Et puis je m'éclate toujours déjà, donc j'ai pas envie d'arrêter. Et puis je suis devenu pertinent pour d'autres choses, pour faire de l'immobilier, pour organiser des séminaires. Je disais tout à l'heure, voilà, on a développé aussi un truc en B2B où je peux expliquer à un patron de boîte ou de start-up comment c'est hyper important d'embarquer ses équipes, et comment le séminaire à l'offsite va être un moment clé pour lui. Mais Tant que je m'éclate, j'ai pas envie de m'arrêter. Alors après, il y a quand même, et tu l'évoques très bien, les conditions forcément financières à tout ça. Et c'est plus en parlant avec des potes entrepreneurs qui ont entre guillemets réussi, qui ont fait une super exit, quand je dis réussi, c'est financièrement, et qui me disait, je parlais avec Clément Alteresco qui a créé Morning Coworking il y a pas longtemps, et bureau à partager avant, et qui me disait, mais les gars, vous approchez de la quarantaine, comme moi, il est un tout petit peu plus âgé que nous, vous voyez où dans 5 ans quoi? Mais c'est une question que je m'étais jamais posée quoi, parce que les 10 ans de crédit sont passés à toute vitesse, à fond. On s'est éclaté, on a voyagé, on a fait kiffer les gens.
On a fait un film sur toi.
On a fait un film. Ouais, c'est vrai qu'on n'a
pas reparlé. On n'a pas reparlé.
Il y a un film qui sort en 2018 qui s'appelle Budapest. Qui est, je pense, à ce jour le seul film sur une startup française, donc pour nous c'était un énorme kiff de qu'il y a des gens qui jouent notre rôle à l'écran,
place devant Xavier Niel, devant Martin Orsini, devant tous les stars des médias, c'est incroyable.
Ouais, voilà, exactement. Non, mais
il y a que Zuckerberg et toi qui
avait tu sais que les mecs, quand ils viennent nous pitcher le film, en fait ils viennent nous voir pour la petite histoire, parce que j'ai un pote d'école, un pote d'HEC qui est devenu scénariste, Simon, que je salue, qui nous contacte en disant, les producteurs avec lesquels je bosse veulent à tout prix faire un very bad trip à la française. Ils ont besoin d'anecdotes croustillantes. Venez nous voir. Est-ce que Donc ils viennent nous voir au bureau, on est en 2014, hein, ça remonte, et on donne un tas d'anecdotes et tout ça, on fait, puis après ils nous invitent à dîner, puis après une, et on se voit 3-4 fois, et au bout d'un moment, au troisième ou quatrième rendez-vous, ils nous disent pas faire Very Bad Trip, en fait, on va faire un mix entre Very Bad Trip et The Social Network. On dit ah, c'est quoi votre pitch là? Et ils disent ouais, bah en fait le fil rouge des trucs loufoques qui arrivent aux gars, ça va pas arriver à leurs clients, ça va arriver à eux, et en fait ça va être vous deux, ça va être l'histoire de Crazy, et donc va y avoir aussi, il y avait cette dimension, Simon après a participé au scénario et tout ça, et il y avait cette dimension entrepreneuriale et tout ça dans le film.
T'as pas fait de caméo dans le film, c'est dommage.
Non, c'était un truc qui nous aurait vraiment fait kiffer avec Aurélien. On allait sur le tournage, j'arrêtais pas de nous dire à un moment donné il y aura une petite scène où vous sortez de l'ascenseur et ils croisent des gars et tout. Et puis finalement, le milieu du cinéma est un milieu quand même très particulier. Je pourrais en parler pendant des heures, mais ouais, petite déception sur le tournage. Après, quand le truc est lancé, ils sont en train de bosser, les gars. Nous, on était un peu dans l'ombre et tout, on regardait, ça nous faisait marrer. On a pas mal participé au début avec nos anecdotes et tout à l'écriture du scénario. On a fait des repérages à Budapest avec l'équipe du film pour leur montrer nos activités. On a été forcément en boîte, on les a fait monter sur un tank, on a fait tirer, etc. avec Manu Payet, c'était super cool. Mais après, un film, c'est très très long à mettre en place. Repérage, il a lieu en 2014. Le tournage du film a lieu en 2017 et la sortie en 2018, quoi. Donc, entre temps, il se passe plein de trucs. L'équipe du film change. Le réalisateur a changé au moins 3 fois. Donc, le jour où ça se tourne, il y a la moitié de l'équipe, on les connaissait pas. Donc, sur place, voilà, ça se fait pas. Mais bon. Donc, ce film est très cool. Je sais plus pourquoi on en parlait. Mais,
Parce que pour dire que, voilà, t'étais arrivé à un moment où, qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans?
Le film était pas, voilà, un accomplissement en soi, mais c'était un vrai kiff. On était reconnus,
Ouais, je voulais juste qu'on en parle, en fait.
On était reconnus en tant qu'entrepreneur. À l'avant-première du film, c'est super cool. Les gens voient qu'il y a une vraie boîte, parce qu'on a fait marrer plein de gens. J'ai dit, putain, quand même, un film sur eux, en fait, non.
Il a marché, le film?
Alors. Le film sort en plus mauvais moment pour le cinéma français, en pleine Coupe du Monde. La France a gagné en 2018. Et au moment où il faisait une chaleur de dingue, donc tout le monde est en terrasse, il sort une semaine où il fait 40 degrés. Alors je dis pas ça pour défendre le film qui vaut ce qu'il vaut, c'est pas moi qui l'ai écrit, je joue pas dedans, etc.
Moi je l'ai vu, c'est pas un grand film. C'est pas non plus une daube, mais c'est pas un grand film.
Voilà, c'est une comédie française, assez loufoque, qui est drôle et tout. Non, il sort au mauvais moment pour le cinéma français. Je crois que de l'année 2018, il sort la pire semaine de toute l'année pour le cinéma, donc il fait 200 000 entrées, là où les mecs tablaient plutôt entre 500 000 et 1 million pour une petite comédie qui passe bien, une comédie de l'été. Je me souviens encore quand même, pas pour leur taper dessus, mais les gars de l'équipe marketing qui dit on va sortir ça l'été, il y a quand même un mec dans la salle qui dit on participait un peu à ces réunions, mais on n'avait pas le droit au chapitre, on leur dit c'est pendant la Coupe du Monde les gars, qui dit ils sont nuls les Français cette année, ils sortent même pas du groupe, au pire ils sont tapés par l'Argentine en 8e, enfin les mecs font des simulations et ils disent non, on le sort après les 8e. Et fait tranquille, quoi. Les mecs vont aller au cinéma, la France sera sortie. Bah, bravo, les visionnaires.
Et cinématographes.
L'expert de chez Warner qui a sorti ça. Voilà, bravo, mec. Et donc, non, vraiment pas ouf. Mais derrière, en VOD, sur Canal, en ce moment, il est en VOD sur OCS, tout ça. Il marche super bien. Il sort sur Netflix dans le monde entier. Donc, après, on a eu une petite renommée. J'ai encore reçu sur Instagram, je crois que c'était hier, un Brésilien qui nous envoie plein de copies d'écran du film qu'il est en train de regarder et qui veut lancer Crazy EVG au Brésil. Enfin, on a eu des demandes dans le monde entier. C'était assez drôle. Et surtout pour les clients, mais une crédibilité de dingue. Enfin, la meilleure pub qu'on puisse avoir, parce que ça nous coûte rien et ça nous fait une pub de dingue. La première phrase du film, c'est ceci est inspiré de l'histoire vraie de Crazy EVG, immatriculé au RCS de Créteil, et balance le numéro et tout. Donc c'était cool.
Et est-ce que tu peux nous raconter du coup cette anecdote croustillante qu'on te demandait? C'est quoi ton anecdote la plus croustillante que tu as sur ta boîte?
Oh, j'en ai plein de clients, de nous. Peut-être de raconter un truc flippant, une galère plutôt pour parler un peu de, enfin pour être dans le thème du podcast. Comme on était un peu dingue, qu'on testait vraiment tout, on avait peur de rien. On allait vraiment, on grimpait sur des tanks, on tirait à la calage. On ne demandait jamais au début est-ce que le mec il avait une licence, est-ce qu'il avait une autorisation, est-ce qu'il avait une assurance, quoi. On se retrouvait dans des campagnes de pays de l'Est à tester tout et n'importe quoi. Et un jour, c'était en janvier 2016, on se retrouve à 30 bornes de Varsovie, dans la Pampa polonaise. Il fait moins 5 et on va tester une activité de Monster Truck. Monster Truck, c'est un espèce d'énorme 4x4 monté sur des roues qui font 2,50 m, quoi. Et le mec, en fait, bricole depuis des tracteurs, construit des Monster Truck. Donc, parle pas un mot d'anglais. On est avec notre employé slovaque qui fait une traduction en polonais approximative, parce que le slovaque et le polonais se ressemblent, mais pas tant que ça. Bref, il neige. Et Gab vient nous faire tester son Monster Truck. Il conduit. Il a une espèce de circuit qui ressemble à un circuit de quad avec plein de bosses et tout. Et puis au d'un moment, il descend du truc, il me pousse, il me met sur le volant et il me dit, il me file les pédales et bon voilà, ça ressemble à une bagnole et il me dit go 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 et j'essaie de lui demander machin, j'essaie d'attacher ma ceinture, il me dit il rigole, genre il y a aucun risque et tout et bon, nous on est encore à fond dans le développement et tout, Aurélien est à côté de moi, je démarre première bosse. C'est gelé, il fait moins 5 et tout, je commence à patiner, j'arrive pas à j'appuie sur le boum. La roue sort de l'axe de la bosse. Le Monster Truck se retourne. En une fraction de seconde, on est coincé sous une tonne de tôle. Le gars perd connaissance à côté de moi. Aurélien, lui, il est encore conscient. Et on est écrasé. Et le moteur tourne encore. Il fait moins 5. On a la tête dans la neige. On est complètement compressé. Le mec parle plus. Je sais pas si les gens nous ont vu partir faire ce test d'activité. On était avec notre employée slovaque, mais elle est à 3 km de là. Donc je sais pas si elle sait qu'on est là-dessous et tout. Et là, il se passe rien pendant 30 minutes.
Et tu peux pas sortir.
On se parle avec Aurélien. On se dit, t'as de trucs. Il y a tout qui te passe par la tête. Tu
penses que tu vas mourir là?
Ah bah, tu vois, t'as froid très vite. Ça sent l'essence. Et voilà, on se dit des trucs, que c'est génial ce qu'on a fait jusqu'ici, on pense à nos enfants, enfin. Et puis au bout d'un moment, notre employé arrive et nous dit qu'elle a appelé les pompiers et tout, et qu'ils vont bientôt arriver, qu'il faut tenir et tout. Elle nous demande de couper le contact, on n'y arrive pas, on dit que le moteur tourne, elle hurle, elle dit que ça sent l'essence, enfin tu te vois dans les films avec le moteur qui explose, quoi, tu sais pas ce qui va se passer, quoi. Et voilà, ça se termine bien, les pompiers arrivent, il y a 40, et ils dessoudent la porte, enfin ils finissent par nous sortir de là. La galère continue parce que le gars qui était inconscient à côté de nous, ben, il s'en remet, mais il met pas mal de temps à se réveiller. Tout le temps qu'il est inconscient, les flics me jugent responsable de l'accident. Donc, je suis dans un camion de flics polonais qui me mettent une pression de dingue et qui me disent que je suis peut-être responsable d'un homicide. Enfin, on passe par tout un tas de moments très, 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 très flippants. À 22h, je suis relâché parce que le gars se réveille à l'hôpital et dit qu'on se connaissait, machin. Et voilà. Pourquoi je raconte ça? C'est parce que, entre autres dans les anecdotes croustillantes, c'est que on se rend compte à ce moment-là qu'on n'avait pas demandé au gars s'il était assuré, qui il était. Il se retrouve que le gars, il était immigré clandestin, ukrainien, qu'il avait une ferme et qui déclarait, même lui n'était pas censé être là, donc son business n'était pas un business
peux recommander, ouais.
Voilà, et on prenait des risques énormes. Et heureusement, limite que ça nous arrivait à nous et pas à des clients. Et parce que ouais, on testait tout et on allait vraiment à fond pour tester les produits, pour mieux les vendre, comme je disais tout à l'heure, pour mieux négocier les prix et tout. Mais on prenait des de dingue. Et là, à ce moment-là, on calme le risque et chaque rendez-vous, il commence par montre-moi ta licence, montre-moi ton assurance.
Ok. Incroyable. Pour finir, une question que j'aime bien poser, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné et le pire conseil qu'on t'ait donné? Je vais faire la deuxième.
Ouais.
Le meilleur, t'avais dit Victor Roger, mais il y en a un autre, un bon conseil.
Ouais, le meilleur. Le meilleur, c'est en RH. On n'a pas beaucoup parlé de RH, de management, qui a été un truc clé chez nous, parce qu'on a voilà une quarantaine d'employés qui adorent le produit, qui sont foufous, qui sont jeunes, génération X, Y, machin, les millennials. Ils sont très durs à gérer, mais quand ils kiffent le produit comme ça, ils sont à fond. Donc je suis passé par pas mal de phases de management dans ma vie et j'ai été coaché notamment par un mec. Et il y a cette phrase qu'il m'a dit un jour et que maintenant j'applique tout le temps. En management, en RH, quand t'as un doute, t'as plus de doute. Et en fait, il me dit, les gens changent pas. Donc, la période d'essai, elle est faite pour ça. Enfin, le début, tu vois le gars, si ça fit pas, te prends pas la tête à lui faire 50 000 rappels, etc. et tout. Il faut vite se séparer. Et Maintenant, je l'applique immédiatement. Quand j'ai un doute, j'ai plus de doute. Ça veut dire, il bouge, il a pas l'ADN crazy, ça sert à rien, ça marchera pas. C'est pas grave, il trouvera sa voie ailleurs. Et j'ai appris à le faire, alors qu'au début, je suis un mec hyper empathique et tout ça. Je veux qu'on kiffe mon produit, je veux qu'on kiffe ma boîte, je veux qu'on kiffe ma façon de manager. Donc, j'essaie de faire rentrer tout le monde dans le truc, alors que des fois, non. Et j'ai mis du temps à passer ce cap. Et je pense que c'est hyper important, quand on est entrepreneur, de se comprendre, de comprendre quel manager on est. Et d'appliquer des trucs aussi basiques que ça, mais pour passer à la suite rapidement.
Le pire
conseil, ça va rejoindre un petit peu. Je vais reprendre le début. On m'a dit, quelqu'un que je ne citerai pas parce que c'est pas très très gentil, mais en sortant de l'incubateur HEC, en sortant du pitch, donc qu'on avait recommencé, il y a quand même quelqu'un parmi les 10 qui était dans le jury qui est venu nous voir en disant ça marchera jamais votre truc. C'était pas sympa, donc c'est pas vraiment un conseil, mais c'était quelqu'un qui avait réussi, qui a fait une belle boîte et tout en plus, donc c'était de se démotiver. C'est, mais en plus c'était même pas argumenté, c'était juste genre j'aime pas le produit. Alors je comprends, notre produit il peut être un peu clivant, enfin c'est la teuf et tout, si t'aimes pas la teuf, si t'aimes pas les soirées avec tes potes et tout ça machin, mais de là à nous dire ça marchera jamais, avec Aurélien ça nous avait mis une énorme claque. Et
surtout que tu dis lui c'est un sachant,
quelqu'un qui a réussi et tout, ouais. Et nous disant votre truc, bon les autres vous avez réussi à les accrocher avec votre chiffre d'affaires et tout, mais ça marchera pas quoi. Et à ce moment là c'était pas solide, si tu crois pas à fond dans ton produit, si t'as pas fait all-in et que de toute façon t'as plus le choix, bah, c'est hyper dur quoi. Et voilà, donc c'était pas vraiment un conseil pour répondre à ta question, mais c'était un truc qui nous a beaucoup marqué. Et après il y a pas d'histoire de revanche, on a voulu réussir pour lui prouver.
Tu l'as revu ce mec?
Ouais.
Et là il a fait quoi? Il a dit ouais je savais que ça allait marcher, je voulais dire, je suis sûr. Il a fait comme ça,
toujours surprenant quoi, enfin ouais bon vous en sortez machin et tout, mais j'ai recroisé une autre occasion, mais j'ai plus pas eu envie de lui dire bah tiens regarde, en fait chiffre d'affaires, j'ai 40 employés machin et tout. Non mais bon, tu vois, je me dis, je sais pas après s'il a vu le film ou quoi, mais justement nous on avait, pourquoi j'ai parlé de cette anecdote, parce que dans les débuts et même jusqu'à récemment, notre boîte a fait marrer. Donc quand tu croises d'autres entrepreneurs, d'autres jobs ou des VC et tout ça, les mecs te disent ouais enfin c'est rigolo votre truc mais ça fait combien et tout, ou comme tu disais un peu toi même intro, est-ce qu'au début t'accompagnais tes clients, ouais vous êtes toujours alors je suis pas guide touristique, j'ai une boîte, je fais des trucs et tout, et je fais du chiffre d'affaires, j'ai des process, j'ai un coût d'acquisition client, je suis entrepreneur comme tout le monde, pas parce que mon produit il est marrant qu'on fait pas du business. Ça c'est aussi un business, aussi marrant soit-il, et on s'éclate ouais, mais on a mis beaucoup de choses en place. Et justement le film c'était vraiment cool, il y a plein de gens qui ont pris conscience qu'on était pas une énorme boîte, mais oui, on avait 50 000 clients par an. Oui, on faisait du chiffre. Et oui, Crazy Voyage, c'est une aventure de potes, mais c'est une aventure entrepreneuriale aussi.
Magnifique. Bah écoute, ça sera le mot de la fin. On a largement dépassé le temps. Merci beaucoup, Alexandre. C'était
Merci,
un
David.
Vrai plaisir. J'espère que ce podcast va cartonner. Et à bientôt. Salut.
À bientôt. Ciao.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.